Bonjour à tous, bienvenue pour ce second podcast interview de Point & Think. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Bardet, qui est lead game designer sur Under the Wave. Bienvenue Thomas, comment vas-tu ?
Ça va très bien, et toi ?
Bah écoute, ça va super, je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de ton parcours et du jeu Under the Wave. Donc pour présenter rapidement le jeu, donc, c'est un jeu qui est édité par Quantic Dream, développé du coup par Parallel Studio. On va dire soutenu par un label qui s'appelle Label Spotlight by Quantic Dream, sur lequel on reviendra. C'est un jeu qui est sorti sur toutes les plateformes, donc PS5, PS4, Xbox Series, PC. Et donc c'est un jeu d'aventure narratif qui donc se passe sous l'eau et qui aborde différents thèmes, que ce soit le deuil, l'écologie. Donc on reviendra là-dessus durant ce podcast. On incarne un plongeur professionnel dans l'armée, dans la mer du Nord dans les années 70 qui se retrouve donc à explorer des grottes et des complexes sous-marins dans le cadre de la réalisation de son métier. Et donc c'est un jeu, point intéressant, qui a un partenariat avec une fondation qui s'appelle Surfrider Foundation Europe qui lutte donc pour la protection des océans. Et pareil, on pourra y revenir aussi par la suite. Donc petit point sur Parallèle, donc c'est un studio indépendant parisien qui est cofondé par Ronan Coiffec, Nicolas Bredin et Sébastien Renard. Et donc c'est un petit studio qui a trois jeux à son actif, donc White Knight, Dark Days et Echo. Et donc la philosophie du studio, qui décrit sur son site, c'est de proposer des expériences narratives avec des récits basés sur l'émotion. Donc voilà pour cette présentation, on va tout de suite lancer le générique. Let's go. D'abord, pourrais-tu te présenter, qui es-tu, quel est ton parcours professionnel dans un petit studio de développement de jeux vidéo, tel que Parallèle ?
Alors, moi qui je suis Thomas Bardet. Mon parcours professionnel, du coup, c'est que je suis aujourd'hui lead game designer à Parallèle Studio. Avant ça, j'ai travaillé sur plusieurs types de projets, j'ai travaillé sur de la réalité virtuelle, j'ai travaillé sur du jeu mobile, j'ai travaillé sur du serious game. Donc voilà, j'ai fait quelques petits studios avant d'arriver à Parallèle. Je suis arrivé du coup au début du projet Under the Wave, vraiment dans la boîte. Concrètement, qu'est-ce qu'un lead GD ? Pour répondre un peu à ta question, c'est déjà peut-être pour définir ce que c'est qu'un GD, un game designer. Le game designer, ça va être la personne qui va concrétiser en fait une idée narrative, une idée visuelle, la concrétiser en mécanique de jeu. C'est-à-dire comment on va prendre une volonté de raconter quelque chose, comment on va prendre une idée visuelle. Et comment concrètement le joueur il va interagir avec cette idée, comment cette idée va être représentée au joueur. Il va définir du coup qu'est-ce que le joueur fait, qu'est-ce que le joueur ne fait pas, comment le joueur voit les choses, comment le joueur interagit avec le monde, et comment le monde réagit au joueur. Ça peut être très très large, c'est pas facile à définir non plus comme type de métier, et d'autant plus que du coup dans une boîte indé comme Parallèle où on est une douzaine, quinzaine de personnes, le rôle de game designer peut être un peu plus large. En fait, c'est un rôle qui évolue aussi pas mal en fonction des entreprises hein, et des studios dans lesquels on travaille. Mais donc typiquement, nous, à Parallèle, on a tendance à avoir une casquette assez technique. C'est-à-dire qu'on est des game designers qui mettons la main dans le moteur et qui implémentons nous-mêmes nos features.
Je suppose que du coup, globalement, c'est un métier qui est un peu au carrefour de tous les autres métiers du jeu vidéo, puisque, comme tu le dis, vous êtes au cœur de la création, enfin, vous êtes au cœur ouais, de ce que fait le joueur.
Exactement, ouais, la notion de carrefour, c'est exactement ça. Il faut qu'on communique toujours avec les différents pôles, le pôle artistique, le pôle de dev, le pôle son, et comprendre comment tous ces savoirs et tous ces métiers s'imbriquent. Enfin, une mécanique de jeu sans artiste pour l'habiller, ça vaut pas grand-chose la plupart du temps. Et même si elle est un peu complexe, sans dev pour la faire fonctionner, elle marche pas, donc c'est pas intéressant. Et on parle pas beaucoup du son, mais le son est encore plus important, surtout dans les jeux qu'on fait nous à Parallèle, qui sont des jeux assez... des expériences un peu poétiques, etc., où là le son a un impact ultra important.
Pour revenir un peu du coup sur toi, sur un plan plus personnel, est-ce qu'il y a des jeux, enfin quels sont les jeux qui t'ont donné envie de faire ce métier? Est-ce que t'es joueur déjà à l'origine?
Alors oui, il y a des jeux moi qui m'ont donné envie de faire ce métier. Je suis joueur évidemment depuis que je suis tout petit. Moi, s'il y a un jeu, peut-être le premier jeu qui me revient à l'esprit, ce serait Little Big Adventure 2, pour ceux qui connaissent, qui est un jeu d'aventure français développé par Adeline Software, Frédéric Reynal et tout ça, le créateur de Alone in the Dark, le premier Alone in the Dark. Et donc moi, c'est un jeu que j'ai découvert très jeune. C'est un jeu que j'avais sur PC et c'est un des premiers jeux où en y jouant, j'avais une sensation de liberté et d'un monde qui réagit vraiment à ce que je fais et qui est dans lequel je pourrais juste passer du temps. C'est-à-dire qu'avant ça, moi, j'avais joué à Mario, j'avais joué à Pokémon, j'avais joué à plein de jeux, quoi. Mais ben, Mario, c'est un platformer, on se déplace d'un point A à un point B et c'est chouette, c'est trop bien Mario. Mais j'avais pas cette notion de liberté, j'avais pas ce truc de... tout d'un coup, je suis dans un monde et là, je pourrais passer, enfin, sur l'établi d'aventure, je pouvais passer des heures à juste me balader dans le petit village, à parler aux gens et à lancer, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, à lancer des balles magiques sur les enfants, des trucs comme ça, quoi. Donc, c'est vrai que ça, c'était un petit choc, Little Big Adventure. Surtout d'un point de vue très personnel, moi, c'est aussi l'un des premiers jeux qui m'a fait apprendre l'informatique un peu, très jeune. C'est un jeu qui a pas marché pendant très longtemps sur Windows XP, Windows Vista, etc. Donc, il fallait le patcher un peu sévèrement pour que ça marche. Donc, il fallait mettre un peu les mains dans le cambouis. Après ça, oui, il y a d'autres jeux moi, qui m'ont inspiré. Plus tard, Minecraft, etc. C'était quelque chose de très important, je pense, pour toute ma génération de développeurs de jeux. Maintenant, il y a peu de développeurs de jeux qui n'ont pas commencé avec Minecraft d'une façon ou d'une autre.
Autre question que Vaïs, ça fait combien de temps que tu fais ce métier, du coup ?
Moi, concrètement, première fois que j'ai travaillé dans un jeu vidéo, c'était en 2016. On est en 2023, ça va faire 7 ans.
Et du coup, au-delà des jeux, est-ce qu'il y a des personnalités tu l'as parlé, du coup, les créateurs de Little Big Adventure, mais est-ce qu'il y a des personnalités qui t'ont particulièrement inspiré au-delà de ces personnes-là, qui, même aujourd'hui, hein, c'est-à-dire plus récemment, où tu te dis, ça, c'est les créateurs, c'est un peu des exemples
Oui, un certain nombre. Fumito Ueda, créateur d'Ico, créateur de Shadow of the Colossus, qui est un peu une référence pour tout ce qui va être expérience poétique, c'est un peu galvaudé comme mot poétique, mais en réalité ça veut dire quelque chose quand on parle de Fumito Ueda. Eric Chahi, moi Eric Chahi en plus c'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de travailler sur Paper Beast, et voilà, c'était quelqu'un déjà que j'admirais quand j'étais gamin. Another World, c'est un jeu extraordinaire.
Ouais, donc ça doit faire quelque chose de se retrouver à travailler avec lui, je suppose.
Oui, c'est à la fois impressionnant et à la fois c'est quelqu'un de très humble, et donc du coup en fait on impressionné, et puis dès qu'on commence à travailler, au bout de 20 minutes, on travaille avec quelqu'un qui est très à l'écoute et qui est extrêmement doué et qui est ultra créatif, et c'est fabuleux quoi. C'est une grande chance. Après, voilà, la personnalité, c'est moins des peut-être moins des personnalités, plus des jeux qui, à chaque fois, là en plus, en ce moment, il y a des grands jeux qui sortent et qui nous font croire de nouveau qu'il y a des choses de. Enfin, on voit qu'il y a des nouvelles choses possibles à faire dans le médium du jeu vidéo. Il me semble que vous en avez parlé là récemment dans un de vos podcasts, Outer Wilds, qui est un jeu absolument extraordinaire.
Exactement.
Obradine, pareil, c'est un truc où ça fait des choses qu'on ne pensait pas pouvoir les faire avant. Enfin, c'est des trucs comme ça où ça redonne des idées. Et, là où parfois, après un cycle de dev, on se dit qu'est-ce qu'on va faire ? C'est chouette de voir qu'il y a toujours des jeux qui sortent et qui créent des trucs.
Je voulais rebondir, du coup, tu évoquais Fumito Ueda. Je suppose que du coup, toi, en tant que game designer, tu es sensible à son... à ce qu'on appelle le game design par soustraction, du coup. Ça doit te parler. Si tu peux présenter rapidement pour nos éditeurs ce que c'est, ceux qui connaîtraient pas.
Pour vulgariser, c'est le keep it simple, quoi. C'est globalement, on part d'un truc, puis après, tout ce qui est pas nécessaire, on l'enlève. Puis tout ce qui est un peu nécessaire, mais pas beaucoup, on l'enlève aussi, parce qu'en soi, c'est pas forcément si nécessaire que ça. Et on garde l'expérience la plus pure, le noyau d'expérience le plus pur et le plus simple. Concrètement, l'idée, c'est on se focus sur l'essentiel. C'est un peu le Marie Kondo du game designer, hein. Mais c'est vrai, on se focus sur l'essentiel. C'est intéressant à appliquer. Ça marche aussi comme toutes les règles de game design. En réalité, ça ne s'applique pas pour tous les jeux et ça ne s'applique pas pour tous les contextes. Mais c'est assez intéressant de réfléchir aussi à son design de cette façon.
Pour donner un exemple, en fait, par exemple, dans le deuxième jeu, on va dire, de la trilogie Ico, qui est Shadow of the Colossus. Le concept du jeu, du coup, repose sur l'élimination des colosses. Et en fait, si on regarde le gameplay, les deux principales actions qu'on fait, du coup, c'est aller jusqu'au colosse. Et une fois qu'on arrive au colosse, c'est donc le vaincre. Et il y a donc deux principales actions là que tu fais, c'est tu grimpes dessus, donc il y a un système d'escalade, et un système où du coup tu vas frapper des points faibles. Et donc tout le jeu repose là-dessus, les 16 colosses. En fait, je suis en train de faire le jeu en ce moment, donc en plus je suis bien dedans. Et en fait, tu enchaînes les colosses de cette manière. Et le cœur du jeu, c'est ça. Du coup, au niveau de la narration, il n'y a pas de fioritures, on te donne le strict nécessaire, et c'est ce qui rend en fait ces expériences vraiment très fortes.
Et ça va même plus loin que ça, en fait. C'est-à-dire que pour ceux qui ont joué à Shadow of the Colossus, comme tu disais, le monde de Shadow of the Colossus, il est extraordinairement vide. Et alors, au cours du développement, il était prévu de mettre des villes, de mettre des forêts, des choses comme ça. Et alors, ça a été à la fois qu'il est, pour des raisons de production, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, etc. Mais aussi, le fait d'avoir un monde extrêmement vide par rapport aux propos de Shadow of the Colossus, ça crée une atmosphère et une ambiance qui est assez fabuleuse, en fait. Et c'est ça, le design soustractif. C'est philosophie Miyamoto, dire une bonne idée, c'est une idée qui résout plusieurs problèmes. C'est vrai. Bah là, c'est ça, en fait. Ça résout des problèmes de prod, ça coûte moins cher, mais en plus, c'est juste plus fort quand on enlève des choses, quoi, dans le contexte de Shadow of the Colossus.
On va revenir un peu sur Under the Wave. Donc, tout d'abord, je voulais revenir sur l'édition du jeu par Quantic Dream. Et du coup, en te demandant comment la rencontre entre donc, Quantic Dream et Parallel s'est passée, comment ça s'est fait, et du coup, comment vous en êtes arrivé à ce partenariat d'édition par Quantic.
Du coup, peut-être pour remettre un peu de contexte dans Parallel Studio, tu en avais parlé un peu dans l'intro. Parallel, c'est fondé par trois personnes, Ronan Coiffec, Nicolas Brodin et Sébastien Renard. C'est des gens qui ont un peu d'expérience maintenant dans le JV. Ils ont bossé, chez Dontnod, chez Ubisoft, chez Eden Games aussi à l'époque. Donc c'est des gens qui ont pas mal de connaissances et qui ont déjà fait des jeux. Il se trouve que sur un des précédents jeux du studio, Dark Days notamment, ils avaient déjà bossé avec Quantic Dream pour faire de la mocap, pour utiliser les studios de mocap. Nicolas Brodin aussi est aussi passé par Quantic Dream à une période dans sa carrière. Donc c'est des contacts qu'on a déjà, c'est des gens qu'on connaît. L'industrie des jeux vidéo en France, elle n'est pas non plus gigantesque, en fait, donc c'est des gens qu'on connaît, qu'on croise dans des salons, etc. On s'est trouvé, nous, dans la boîte, à une période, à la sortie d'Echo, du coup, notre dernier jeu, à devoir réfléchir à des nouveaux concepts, des nouveaux jeux, qu'est-ce qu'on faisait pour la suite, quoi. On a pensé à Under the Waves, on a préparé un pitch, préparé des démos, etc. On est allé voir des éditeurs. Il se trouve que là, dans les éditeurs, on est tombé sur Quantic Dream, qu'on connaissait déjà un peu. Alors on a rencontré d'autres éditeurs aussi, hein, mais Quantic Dream, il y avait une résonance particulière par rapport à la thématique du jeu et un peu à la philosophie de design qu'on avait autour du jeu. Et donc voilà, ça s'est un peu fait comme ça, en fait. C'est assez classique comme format développeur édition, à l'exception que du coup pour Quantic c'était assez récent, hein, pour Quantic fasse de l'édition. Avant ça, ils avaient fait, je crois qu'ils avaient publish Sea of Solitude sur les stores, mais qui était un jeu déjà fait, et donc du coup, ouais, nous on était un peu le premier jeu édité par Quantic Dream de A à Z, et sachant que maintenant il y en a quelques autres qui sont annoncés là.
Bon, ça s'inscrit dans une volonté de Quantic Dream de diversifier ses activités, donc en plus du développement de jeu, faire de l'édition. Du coup, pour maintenant vraiment rentrer dans le dur et on va dire parler d'Under the Wave, pourrais-tu nous expliquer comment est né le projet, quelles ont été vos inspirations, que ce soit vidéoludique ou non? Parce à titre personnel, quand j'ai découvert le titre, il m'a fait penser par exemple à Firewatch, parce que tu sais, cette relation avec un personnage à distance avec lequel on échange par radio, et c'est vrai que ça m'a rappelé, alors après sur le reste le jeu est très très différent, mais c'est vrai que la première vibe, je me suis dit, ah tiens, il y a cet écho là, est-ce que ça a été une de vos inspirations aussi ou pas du tout, et du coup c'est une ressemblance, c'est un parallèle fortuit, on va dire.
C'est marrant du coup que t'en parles. Moi, la première fois, quand je suis arrivé à Parallel Studio, la première chose qu'on m'a dit que Ronan du coup, le directeur créatif, m'a dit pour décrire le projet, il m'a dit, tu vois Abyss de James Cameron, tu vois Firewatch, on fait ça, on fait le mélange des deux. Et en fait, voilà, c'est comme ça qu'on décrit le projet facilement pour nous. En interne, c'était Abyss qui mélange Firewatch. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait Firewatch Abyss sous l'eau, quoi. On avait d'autres références, mais c'était la façon qu'on avait, la philosophie qu'on avait derrière. Pour expliquer d'où est né le projet, c'est un peu une longue histoire. Pour le coup, ça vient vraiment de Ronan du coup Coiffec, le directeur créatif qui, quand il était en études, en internat ou quoi, il faisait des petits protos dans sa chambre pour apprendre à développer des jeux vidéo. On est au début des années 2000, c'est du flash. À peu près en même temps, il y a l'Erika, la catastrophe de l'Erika en Bretagne. Et il proto un petit jeu en 2D où on joue un plongeur qui nettoie du pétrole sous l'eau. Donc on a des enfin c'est vraiment un proto 2D flash et après en fait c'est un proto qui est resté à chaque fois qu'il apprenait de nouvelles choses en 3D, il mettait un sous-marin en 3D, il utilisait pour ça, enfin il utilisait ça pour apprendre des moteurs etc. Et c'est juste des petits trucs comme ça. Et donc c'est une idée qui a 15 ans quoi maintenant. Et donc bah, j'en parlais tout à l'heure, il y a eu un moment dans la boîte où après Echo il a fallu réfléchir à ce qu'on allait faire après. Alors il y avait plusieurs pitchs en interne qui étaient proposés, mais ce truc là il est revenu. Il se trouve que bah, 15 ans après, il y a aussi eu du vécu côté un peu tout le monde en fait, d'autres choses qui pouvaient se rajouter à ce pitch-là. Et donc bah, le projet, il est né en fait à la fois d'un... Enfin, la genèse même du projet, c'est vraiment un projet écologique. Enfin, c'est vraiment, on joue un plongeur qui nettoie du pétrole sous l'océan. Et à ça, s'est rajouté en fait une thématique sur le deuil, qui vient bah, du vécu aussi des différentes personnes du studio. Et qui s'est rajouté en fait à ça, et en fait on s'est rendu compte que ces deux sujets-là se répondaient très très bien, et que ces deux sujets-là, ensemble, enfin, pouvaient se mélanger et ensemble créer quelque chose de plus grand. Et donc c'est un peu ça, l'histoire de Nurzeb, c'est un peu ça.
Et si tu pouvais identifier, on va dire, les difficultés que vous avez rencontrées au cours du développement du jeu, quelles seraient les principales, et ouais, globalement, sur l'ensemble de la production, quels ont été les grands défis? Je pense notamment au fait que tu dis que, bah, par exemple, toi, tu dois mettre les mains dans le cambouis aussi dans le moteur. Ça peut en être une, je suppose.
Alors, des difficultés, il y en a toujours beaucoup dans le développement d'un jeu. Je pense que la plus grosse et la principale, c'est plus une difficulté de production en général. Faut savoir qu'en fait, avant Underswaves, Parallel Studio, c'était 5-6 personnes qui ont bossé sur Echo. Underswaves, c'est notre plus gros projet à ce jour-là. On est monté, alors au plus haut de la prod, on était je crois que 18-19. Aujourd'hui, on est redescendu un peu à 15 maintenant que le jeu est sorti. Donc bah, il faut grossir en tant que boîte, c'est pas facile. En plus de ça, bah, il y a le Covid, donc tout d'un coup, il faut adapter tous les process au télétravail, etc. Donc bah, ça, c'est déjà un challenge en fait. Puis après, pour revenir peut-être plus sur le jeu en lui-même, faire un jeu qui se passe sous l'eau, c'est pas facile. Quand on demande à des joueurs, pour plein de gens en fait, quand on leur parle d'un niveau sous l'eau, c'est souvent une galère. On a les tortues ninja sous l'eau, les niveaux sous-marins dans je sais pas quel jeu, c'est souvent une galère. Les gens aiment pas trop en général les niveaux sous-marins. Et ça tombe mal parce que nous on fait un jeu où on a que des niveaux sous-marins. Donc il faut comprendre un peu les difficultés de pourquoi les gens aiment pas un jeu sous-marin. La première réponse en général c'est les contrôles. Et en effet faire des contrôles sous-marins c'est un challenge. Pourquoi ? Parce que bah, déjà on a des déplacements à 360 degrés. Ce qui rajoute en fait une dimension hein, par rapport à quand on marche juste sur le sol. Donc après, si on a des joueurs, enfin il y a des profils de joueurs qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, qui jouent à des jeux par exemple dans l'espace, ils vont s'en sortir. Mais c'est vrai que pour des nouveaux joueurs ou pour des joueurs plus casuels, bah, c'est un challenge. Donc il faut réussir à trouver des manières de rendre ça accessible. En plus de ça, c'est pas seulement des contrôles à 360 degrés. On est sous l'eau, il faut ressentir la force de l'eau, enfin il faut ressentir qu'il y a une force, quoi, que l'eau c'est quelque chose. Donc du coup ça implique aussi une certaine lenteur et une certaine lourdeur dans les déplacements, lenteur et lourdeur qui peut devenir frustrante très très vite. Donc pareil, c'est quelque chose, il faut savoir comment où placer le curseur entre le cartoon et on glisse vraiment dans l'océan et le réaliste où là bah, on nage, en réalité on nage pas très vite hein, on nage même très lentement, et nous on a une caméra à la troisième personne, donc ça se voit vraiment qu'on nage très lentement si on nageait vraiment à la vitesse d'un vrai plongeur. Donc il faut tricher un peu, mais discrètement, pour mettre le curseur entre le réalisme et le jouable en fait, et le fun et le gameplay. Donc ouais, ça fait partie des choses qui sont assez difficiles à maîtriser. Nous c'est quelque chose sur lequel on a fait beaucoup d'essais, beaucoup de playtests. Typiquement dans Underswaves aussi, une des décisions qu'on a eues assez vite, c'est que dans Underswaves on peut marcher, nager et aller dans un sous-marin, donc marcher sur le sol. Quand on marche, du coup, on est très lourd, on lutte en fait contre le courant, et enfin contre le courant ou même contre l'eau tout simplement. Donc ça permet aussi d'avoir à la fois des déplacements précis, et précis, plus lourd, plus lent, plus réaliste. S'il faut attendre un point particulier ou dans un espace restreint, marcher, c'est plutôt bien. À tout moment, on peut se mettre à nager. Quand on nage, bah, tout d'un coup, on a une autre dimension, on peut nager à 360 degrés, on nage plus vite. On reste quand même un peu précis parce qu'il faut quand même pouvoir atteindre des points précis. En revanche, on a une contrainte d'oxygène, et donc c'est à ce niveau-là qu'on peut utiliser le sous-marin. Le sous-marin, on n'a plus cette contrainte d'oxygène, on va très vite. Là, c'est un véhicule, on peut faire des longues distances, etc. Et donc là, on a une vitesse qui permet vraiment de parcourir un océan, entre guillemets. Donc en fait, de séparer vraiment les mouvements comme ça en différentes strates, ça nous permet de, de permettre de donner aux joueurs en fait différentes approches au déplacement et de combler un peu des frustrations. Il y a des joueurs en fait qui vont juste jamais marcher, ils se mettront à nager tout le temps. Et c'est pas grave en fait, c'est comme ça qu'on l'autorise. A l'inverse, si des joueurs veulent toujours être en train de marcher parce qu'ils veulent avoir cette lourdeur, ils veulent avoir cette sensation de réalisme aussi, ils veulent jouer un peu RP, bah ils peuvent le faire. Et donc ça résout pas mal de problèmes. Pour parler d'autres difficultés, parce que ah, il y en a plein, je pourrais parler pendant des heures des difficultés d'un projet comme ça.
Ouais, mais c'est ce qui est intéressant parce que ça permet de se rendre compte pour moi de manière un peu plus globale de la réalité d'une production de jeux vidéo, c'est-à-dire que souvent on arrive à un résultat final qu'on juge bon, plus ou moins qualitatif, ça c'est à l'appréciation de chacun, mais c'est vrai qu'on se rend souvent pas compte en fait de toutes les petites choses qui peuvent générer des frictions. Souvent on a ce discours, on entend le discours de certains joueurs qui vont dire et pourquoi ils ont pas fait ci et pourquoi ils ont pas fait ça, et souvent bah, bien souvent les développeurs ils y ont pensé, mais juste que bah, parce que ça marchait pas avec leur concept, soit parce qu'en réalité il y avait trop de difficultés, que ça soit technique ou manque de temps aussi. Et donc c'est vrai que c'est intéressant de discuter de ça pour pouvoir se rendre compte en fait concrètement des choix de design.
Oui, c'est clair en fait, c'est que souvent la moindre modif implique énormément de choses. Faut se dire là, par exemple, nous une grosse partie des contrôles, enfin ce qui rend une grande partie des contrôles plutôt agréable quand on nage, c'est ça passe par les animations en fait. Et ça, le travail d'animation, c'est un travail. Enfin, c'est pas juste l'animateur qui fait le truc dans son coin. Puis moi, j'intègre ça et on voit et ça marche, quoi. C'est beaucoup d'aller-retour, c'est du test, c'est des intégrations. En plus, c'est de l'animation. Enfin, on est sur de l'animation dynamique. Le joueur, à tout moment, il peut aller à droite, à gauche, dans tous les sens. Donc, il faut que ça puisse marcher dans tous les cas possibles. Ce qui veut dire que parfois, les animations trop expressives, ben, on peut pas les faire. Parce que si on fait une animation trop expressive, et ben, quand on va à gauche, tout d'un coup, ça va faire une sorte de blend moche. Enfin, il y a plein de contraintes en fait qui sont assez intéressantes. Un exemple nous, qu'on a eu par exemple de petites choses qu'on n'imagine pas forcément, c'est que nous quand on a commencé à faire playtester le jeu, il se trouve qu'on a fait playtester le jeu à une personne qui jouait pas du tout aux jeux vidéo. C'est-à-dire qu'avoir une manette dans les mains pour elle c'était pas évident, elle jouait surtout sur PC. Et donc du coup elle a pris le jeu en main, elle a marché, tout se passait très bien, elle s'est mise à nager, et là en nageant on s'est rendu compte qu'elle contrôlait pas la caméra. C'est-à-dire qu'elle n'a pas l'habitude de contrôler la caméra avec le stick droit. Et en fait, c'est un savoir inné pour plein de gens qui jouent aux jeux vidéo avec une manette, que se déplacer stick droit, enfin stick gauche, stick droit, et on oublie que c'est des savoirs qu'on apprend parce qu'on a joué à plein de jeux, quoi. Et donc nous, la question, c'était bah, déjà, comment faire? Bon, déjà, la première question, c'est est-ce qu'on fait quelque chose? Parce qu'en fait, peut-être que le jeu n'est pas fait pour elle. Il se trouve que nous, on avait quand même une philosophie de vouloir faire un jeu accessible à des joueurs plus casuels, donc en fait, il faut qu'on fasse quelque chose. Sachant que bah, comme je disais tout à l'heure, on a 360 degrés de direction, donc c'est un peu plus compliqué que de simplement mettre des hotspots ou des trucs comme ça. Et donc au final, ouais, on a appliqué plein de petites choses qui fait que la caméra va légèrement se déplacer vers le mouvement, etc. Ce qui fait qu'en fait dans le jeu, on se rend pas forcément compte si on contrôle la caméra, mais en fait sans contrôler la caméra, on peut complètement se déplacer et jouer au jeu, quoi. Et c'est ces petites choses là que le joueur voit pas forcément et qui rajoutent parfois beaucoup de travail, quoi.
Plus côté anecdote de développement, un peu plus joyeux, est-ce que tu aurais des anecdotes, des trucs un peu rigolos qui se seraient passés au cours de la production, que tu aurais envie de partager, que ce soit plutôt personnel ou non d'ailleurs?
Dans le jeu, bah pour ceux qui auront joué au jeu, mais peut-être même pour ceux qui n'y jouent pas, d'ailleurs je peux raconter, dans le jeu on croise une baleine. Enfin, on peut croiser une baleine. En réalité, il y en a plusieurs, mais c'est là on parle d'une baleine bleue, qui est toute seule, qui s'appelle Sunny. Et il se trouve que nous, Sunny, c'est une baleine qui a été adoptée par la boîte. Donc, alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on a financer en fait des chercheurs allemands. Ah, je vais peut-être pas m'engager sur le allemand parce que j'ai un doute, mais on a financé des chercheurs pour qu'ils étudient en fait et qu'ils suivent cette baleine. Et en fait, c'est globalement on a adopté cette baleine entre gros guillemets. C'est surtout on finance des chercheurs pour qu'ils puissent continuer à étudier ces baleines-là et participer à la préservation de ces baleines-là. Et donc du coup là, dans le jeu, pour ceux qui cherchent un peu, on peut même trouver le certificat d'adoption de la baleine. On peut trouver toutes les infos sur cette baleine, etc. Donc voilà, c'était un petit truc comme ça qu'on avait caché, qui nous faisait plaisir.
Bah d'ailleurs, moi j'ai pas mal joué au jeu du coup et j'ai pas mal récupéré les collectables. Et je sais qu'il y en a un qui est manquable, visiblement. Et je sais pas si c'est celui-là, parce que du coup j'ai pas regardé tous les collectables en détail, mais ça serait rigolo que ça soit celui-là du coup, qui soit lié à cette baleine. Sinon, ouais, je voulais revenir, j'y ai pensé entre temps sur les difficultés. Tu parlais de la 3D, mais du coup, moi je pensais aussi à la mocap que vous utilisez avec Quantic Dream. Est-ce que c'est une question qui est évidente, qui peut paraître évidente, mais est-ce que l'apport technologique, l'évolution de la technologie fait qu'aujourd'hui le jeu vidéo c'est de plus en plus compliqué à développer? C'est-à-dire que, ok, je suppose que des outils comme certains moteurs, tel qu'on peut le voir avec Unreal, bah, permettent de faire des choses, on va dire, automatisées entre guillemets grâce à des outils. Mais je suppose que la mocap, quand vous découvrez ça pour la première fois, ça doit être un exercice, enfin ça doit être quelque chose de très différent, et très compliqué à appréhender.
C'est une bonne question. Attends, je suis pas sûr en fait que ce soit vraiment plus compliqué qu'avant. Je pense qu'en fait c'est surtout différent. En fait, comme tu le disais, les outils ont évolué. Donc les outils rendent plus accessibles des choses qui avant étaient super dures à faire. C'est simple, nous dans ce web c'est sorti sur PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One, PC en même temps. Ça à une époque c'était pas possible pour une équipe de notre taille quoi. Parce que fallait tout changer. Aujourd'hui nous on utilise Unreal. Unreal, ça porte facilement vers ces moteurs-là. Et donc en fait, c'est des choses où, oui, c'est beaucoup plus facile qu'avant. En revanche, avant, on ne nous aurait jamais demandé de le faire. Maintenant, on nous demande de le faire, et donc du coup, ça a beaucoup plus de temps. C'est aussi beaucoup, enfin, ça a quand même du temps et de la difficulté de faire ces choses-là. Donc c'est plus comme on peut plus facilement faire des choses, on nous demande de les faire, et les faire, ça prend du temps. C'est plus ce truc-là. Disons que les attentes sont de plus en plus hautes, le niveau de qualité des jeux est de plus en plus élevé. Donc certes, on fait les choses plus facilement, mais il faut les faire mieux. Donc au final, ça s'égalise un peu. Apprendre par exemple la mocap. Aujourd'hui, la mocap, par exemple, la mocap, c'est pas forcément compliqué dans le sens où il y a beaucoup de ressources. La mocap dans les jeux vidéo, je sais pas, ça va faire 20 ans qu'on en fait, et dans le cinéma encore plus. Pour trouver comment apporter des animations en mocap, pour trouver des process de mocap, c'est pas compliqué, on sait à qui s'adresser, des gens l'ont déjà fait, ils savent le faire bien, on sait faire ça proprement. Ce qui est plus compliqué en fait, c'est de découvrir des nouvelles choses. Et même par exemple, faire un jeu sous l'eau en soi, c'est déjà un peu compliqué parce qu'il y a très peu de jeux sous l'eau. Du coup, il y a moins de connaissances de cette façon, quoi. On connaît moins les contraintes, on connaît moins les difficultés. Et donc, du coup, on y va un peu plus tête baissée et on se prend plus un peu tous les murs, quoi. Donc, il faut être un peu plus flexible.
Et par exemple, du coup, sur de la mocap, par exemple, tu parles d'un plongeur qui est dans l'eau. Du coup, vous avez des outils, alors soit pour les immerger, soit si c'est pas possible, du coup, vous simulez des mouvements très lents, du coup, en lors des tournages?
Ce qu'on a fait pour tout ce qui est nage, on l'a pas fait. C'est-à-dire que quand on est en train de nager, c'est de l'animation en keyframe avec des références à l'ancienne, j'ai envie de dire. Parce que en fait, c'est juste plus simple à faire. Et en plus, qu'on veut que ce soit assez réactif, assez smooth. Donc en fait, il y a un peu même de procédure à l'animation qui s'applique par-dessus pour que ça s'adapte, etc. Par contre, oui, pour tout ce qui va être marche, pour tout ce qui va être. Il y a plein de phases dans le jeu en fait où on est dans le module de vie. Donc on est vraiment dans une petite maison sous l'eau. C'est des phases qui sont cosy, un peu réalistes, on avance lentement, Stan, il faut qu'il y ait des mouvements un peu humains, des mouvements un peu. Faut qu'on se sente à l'aise, quoi. Et donc tout ça, en fait, avoir le jeu d'un acteur, c'est ultra utile, ça nous permet, ça fait gagner énormément de temps et ça donne aussi une touche humaine à l'animation, quoi. Et ça, pour le coup, c'est plus simple. Marcher sous l'eau, on l'a mocapé aussi, et pour ça, c'est assez rigolo, on a juste lesté l'acteur, une personne qui le tient avec une corde par derrière, il avance comme ça en forçant. Et avec plusieurs essais, on finit par avoir un certain réalisme. Dès qu'il faut mocaper par exemple des actions avec par exemple du décor, si on doit mocaper le personnage qui prend un café, il faut qu'on connaisse à l'avance où est-ce que le café sera, à quelle hauteur du sol il sera, etc. Et après, dans la mocap, le café c'est un bout de carton ou c'est une balle en plastique, c'est pas grave. Et c'est plein de petites choses comme ça qu'on apprend au fur et à mesure qu'on fait. Faut prévoir en amont, quoi.
On va plus un peu revenir maintenant, à partir de maintenant sur le jeu et un peu sur le fond. Donc le jeu, comme tu le disais, il nous place dans la peau de Stan, donc qui est un plongeur professionnel qui travaille au fond de l'océan pour une société pétrolière. Du coup, avant de jouer, je connaissais pas du tout ce métier. Est-ce que tu sais les libertés qui ont été prises vis-à-vis de ce métier au niveau des petites tâches quotidiennes, par exemple, qu'on peut faire? Je suppose qu'évidemment, il n'est pas au fond de l'océan en permanence qui remonte, et encore que j'en sais rien. Est-ce que ça existe, on va dire, ces grands complexes sous-marins qui vont être dans l'eau et qui seront en permanence immergés?
Oui, ça existe, il y a des gens qui font ce métier. Des grands complexes, alors aussi grands, je pourrais pas te dire, je sais pas. Parce qu'en plus, c'est pas forcément des infos publiques ou quoi, on sait pas la taille. Enfin, c'est pas forcément facile d'avoir ces informations-là. Ça existe, il y a des gens qui font ce métier. Par contre, oui, il y a énormément de libertés qui ont été prises. Parce que déjà, les gens qui font ce métier restent pas sous l'eau aussi longtemps, parce que c'est trop dangereux. Font des tâches plus simples. Souvent, c'est on va faire une expédition, un peu comme l'expédition, je sais pas si tu vois, la Station Spatiale Internationale. Quand les astronautes sortent à l'extérieur, souvent c'est pour mieux visser un truc, quoi. Ils vont rester 5 minutes, ils vont donner un petit coup de vis et ils vont rentrer. Et en fait, c'est un peu ça aussi, dans des conditions aussi extrêmes, souvent on va pas prendre des risques pour rester 5 heures sous l'eau et faire 50 manipulations. Souvent, c'est contre la distance à la surface et le gars sous le sol, il va donner des coups de vis, vérifier juste que tout est bien et tout est solide et pas forcément plus. Donc oui, il y a beaucoup de libertés qui ont été prises pour qu'il y ait un jeu, même des libertés côté sécurité en fait. Si un plongeur professionnel se comportait comme le joueur pourrait se comporter en contrôlant Stan, il serait viré directement en fait. On peut pas juste se balader comme ça comme on veut. T'es monitoré tout le temps en permanence, tu te balades avec une petite corde pour jamais te perdre. Enfin, c'est des métiers où, enfin, c'est quand même des conditions très très extrêmes d'aller aussi profond sous l'eau. Et donc du coup, bah oui, forcément, il y a énormément de sécurité, énormément de contraintes.
Dans le jeu, tu le disais, on vit dans une base souterraine. Et donc, on se déplace dans un sous-marin. L'ensemble du jeu, on va dire, est dans un style rétro-futuriste. On en a déjà un peu parlé, mais du coup, d'où proviennent ces inspirations et en quoi, pour toi, ça matche bien avec le jeu, on va dire, ce style, du coup, parce que comme tu le disais, c'est pas réaliste, mais pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a un truc entre le style, on va dire, et du coup, ce côté pas très réaliste. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Quand je dis c'est pas réaliste dans le sens, dans la vraie vie, c'est plus complexe. Mais quand même, on veut donner ce sentiment de réalisme, c'est-à-dire qu'il faut que le joueur, faut que ce soit plausible pour le joueur, que ce soit une vraie situation, etc. Typiquement, là, la base sous-marine dont tu parles, qu'on appelle nous le life module en fait, dans le jeu, les premiers prototypes de ça, en fait, ça a été prototypé par le commandant Cousteau. Et c'est des choses, on a des images, on a des plans, etc. Des gens ont vécu sous l'eau dans ce genre de module, quoi. Ça existait. Et c'est que nous, du coup, le jeu se passe dans un monde rétro-futuriste, un peu bloqué dans les années 70. Et pour nous, ça sert à plusieurs choses. Déjà, en premier, pour parler de Cousteau, c'est un hommage vraiment au documentaire du commandant Cousteau. C'est aussi quelque chose qui était assez important dans le projet. On a travaillé le grain de l'image et même toute la lumière, etc., pour reproduire un peu ces vieux documentaires-là. Parce que quand on parle des fonds marins, c'est aussi quelque chose qui est méconnu, les fonds marins. Et donc forcément, on se raccroche aux images des fonds marins qu'on connaît. Il se trouve que nous, on connaissait bien les documentaires du commandant Cousteau. Donc on se raccroche à ces images, on reproduit cette esthétique-là. Stan, il porte un bonnet rouge, c'est un hommage assez direct au commandant Cousteau. Le fait de se placer aussi dans les années 70, ça permet de rapporter une petite mélancolie au propos. C'est pas le terme nostalgie, mais mélancolie, c'est bien. On parle de deuil, on parle d'écologie, on a un personnage qui est torturé. Et donc du coup, cette petite touche-là qu'apporte le contexte, elle est utile, quoi. En plus de ça, ça nous permet aussi d'avoir un propos sur l'écologie qui est libre. C'est-à-dire que si on devait placer ça dans un monde contemporain, ce serait plus compliqué de pas citer des gens, de pas citer des entreprises, etc. Ce qui nous foutrait des problèmes si on le faisait. Donc ça nous permet d'aborder plus librement certaines thématiques. Souvent il y a plusieurs réponses à une question, hein, il y a plusieurs façons de voir le problème. Mais voilà, oui, c'est un peu. Ah, si, une autre raison tout à fait gameplay, c'est que ça nous permet par exemple d'avoir des petits drones, des petites choses comme ça qui viennent donner un peu de la vie dans le monde. Ça nous permet d'avoir des tanks d'oxygène qui sont beaucoup plus grands que ce que ne serait dans la vraie vie, parce qu'en fait c'est la technologie du futur. Enfin bref, ou même d'avoir un sous-marin qui est technologiquement très très avancé. Ça nous permet en fait de tricher et de justifier des libertés qu'on a prises par rapport à la vie, à la réalité, quoi.
Ouais, donc si je devais résumer, ça permet d'allier à la fois le côté mélancolique d'une période passée, on va dire, des années 70, tout en apportant une touche technologique qui permet de rendre crédible le monde dans lequel on évolue.
C'est exactement ça, ouais.
Under the Wave, c'est un jeu qui aborde deux thématiques principales, on les a déjà un peu évoquées, l'écologie et le deuil. Pour ce qui est de la première thématique, celle-ci elle est abordée à travers ses cinématiques et donc son histoire, mais également directement intégrée au gameplay du jeu. Pourrais-tu nous parler du coup de ton rôle sur cet aspect? Parce que je suppose qu'un game designer il a un rôle fondamental, évidemment. Et donc sur la manière dont un designer intègre les thématiques d'un jeu à ses mécaniques afin de proposer un tout cohérent.
En fait, la première chose à voir, c'est ce qu'on veut raconter concrètement. Donc c'est que l'écologie, il y a mille façons de l'aborder. Il se trouve que c'est quelque chose qu'on connaît en game design. On sait que si on veut apprendre entre guillemets quelque chose aux joueurs, que ce soit un discours sur l'écologie ou comment utiliser un bouton, la meilleure façon c'est de le lui faire faire plutôt que de lui dire les trucs. Le joueur il écoute pas forcément ce qu'on lui dit, il veut faire les choses. Et donc c'est mieux si on lui fait faire les choses. Donc l'une des premières, en fait l'un des premières choses qu'on a prototypé assez simplement, c'est sous l'océan on a besoin d'oxygène, on peut recharger de l'oxygène. Assez bêtement on utilise un objet qui nous rend de l'oxygène. Comme dans plein de jeux, cet objet on le jette derrière nous. Sauf que nous dans Anders Wave on a ce truc de se dire les objets que tu laisses derrière toi tu peux les ramasser. Et parce que si tu les ramasses pas, ça laisse une trace vraiment qui va flotter dans l'océan, c'est un petit bout de plastique quoi. Si tu ramasses cet objet, c'est une boucle positive, ça te donne du plastique, le plastique ça rentre dans une petite boucle de crafting. Et donc du coup ça t'encourage à créer de nouveaux sticks d'oxygène ou même d'autres objets, en fait on rentre dans une petite mécanique de recyclage. Et donc ça c'est quelque chose qui va être intégré finalement sur la plupart des objets consommables du jeu. Les objets consommables du jeu, ils laissent une trace. Ces traces-là, on peut la ramasser, c'est une boucle positive, enfin, renforcement positif, tu ramasses quelque chose, tu gagnes une ressource, cette ressource, tu peux la transformer, etc. Et enfin, c'est un propos, quoi, c'est un propos sur l'homme qui laisse une trace derrière lui tout le temps. En plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose, dans les jeux vidéo, c'est quelque chose d'assez acquis, quand on utilise un objet, enfin, on utilise des consommables tout le temps, mais donc tout d'un coup, il y a un petit twist, c'est que ça laisse quelque chose derrière soi, donc ça permet de faire réagir. C'est un peu cette approche-là, l'approche elle est un peu à l'envers presque, c'est de voir comment on peut avoir une mécanique qui rapporte quelque chose, et après il faut surtout, quand on a une thématique aussi forte que l'écologie, il faut essayer de la porter dans à différents niveaux. C'est-à-dire qu'on a ce niveau très très gameplay, très clairement c'est quelque chose qu'on va faire souvent dans le jeu, d'utiliser des objets et de les ramasser ou de pas les ramasser, parce que c'est quelque chose qui est au choix du joueur au final. Mais par exemple on a aussi des achievements liés à l'écologie. On a, pour les joueurs qui veulent avoir plus de connaissances sur le monde, on a en fait une feature qui permet de scanner un peu des éléments. Et donc du coup, si on scanne certains éléments, comme de la pollution, quoi, on va avoir des informations sur la pollution, mais dans le vrai monde, qui sont intégrées au propos du jeu et qui sont intégrées à la narration, etc. On a directement, on a parlé de tout ce qui est directement la narration avec un grand N du jeu et de ce que ça raconte. Et en fait, tout ça ensemble, ça permet de créer un petit tout qui donne un propos sur l'écologie.
Moi, à titre personnel, quelque chose qui m'a marqué, c'est vraiment l'utilisation du sous-marin. Le sous-marin, quand on accélère, notamment au début, enfin au début, jusqu'à un certain point dans le jeu, on va dire, on a du pétrole en fait qui sort directement, donc des grosses bulles noires de pétrole qui sortent directement du sous-marin. Et donc moi, à titre personnel, ça m'a poussé à ne juste pas l'utiliser, en fait. J'avançais relativement doucement, du coup, parce que je voulais pas, du coup, polluer. Parce qu'en fait, il y avait un truc visuel où on voit directement la pollution, ce qui est évidemment pas réaliste, mais du coup, ce qui permet, entre guillemets, d'essayer, en tout cas, de faire culpabiliser un peu le joueur qui l'utilise en lui disant « Regarde ce que tu fais, tu ramasses tes déchets dans le gameplay, tu recycles et tout en craftant des choses, et après, tu vas aller polluer. » D'ailleurs, je parlais du crafting. Moi, je trouve ça vraiment génial, ce truc. En fait, ce que je trouve vraiment cool dans le jeu, c'est que le crafting, il s'intègre du coup trop bien à la thématique, parce que, comme tu le disais, c'est quelque chose qu'on fait dans tous les jeux. Mais là, concrètement, il y a une notion du coup de recyclage, et c'est vrai que c'est un truc que j'ai trouvé vraiment hyper pertinent sur la thématique, parce que ça marche vraiment bien, en fait, tout simplement. Ça donne en fait, là où le crafting parfois c'est un peu quelque chose qu'on retrouve maintenant dans énormément de jeux et parfois on peut y chercher un peu un sens, là pour le coup il y a un vrai sens à en avoir et ça s'intègre bien au tout quoi.
C'est vrai que notre approche du crafting en fait au final était presque plus narratif que gameplay, c'est-à-dire que c'est plus parce que ça raconte quelque chose plus que gameplay, parce qu'en fait si quelqu'un joue au jeu de façon très, très linéaire et mécanique, en fait on pourrait faire le jeu sans le crafting, c'est pas quelque chose d'indispensable. Mais ça raconte quelque chose et donc du coup c'est intéressant pour nous. Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur peut-être sur la culpabilisation du joueur, moi c'est pas forcément cette approche-là. C'est plus une prise de conscience en fait. C'est plus prendre conscience qu'il y a un impact. Et ça, cette notion de prise de conscience, c'est quelque chose qui était un peu important pour nous. Une des raisons pour laquelle en fait le personnage principal Stan est un plongeur professionnel qui travaille pour une entreprise pétrolière. C'est parce que pour nous, c'est plus intéressant de mettre le joueur dans la peau de quelqu'un qui travaille pour une entreprise pétrolière, plutôt que dans la peau d'un activiste, par exemple, qui serait déjà en fait acquis à la cause. Parce qu'en fait, il y a cette notion de prise de conscience et il y a cette notion de questionner en fait son propre impact. Et l'idée, c'est pas forcément même de dire que les méchants, c'est la compagnie pétrolière et qu'on fait tout pour lutter contre ça, quoi. En fait, non, même nous, on en fait partie d'une façon, quoi. C'est pas juste ça, on fait partie de tout ça. Et du coup, il faut questionner son impact à soi en tant que joueur, en tant que personne, etc. Quoi. C'est dans cette thématique-là que s'intègrent ces idées-là.
Non, mais c'est vrai que nos sociétés, elles reposent sur l'utilisation du pétrole. Aujourd'hui, notre monde, notre monde, on va dire, entre guillemets, pas entre guillemets, notre monde capitaliste basé sur les échanges mondiaux, etc., repose sur l'utilisation du pétrole. Et donc, on en est dépendant aujourd'hui. Nos modes de vie sont dépendants de ces activités, notamment le fonctionnement des villes. Les villes sans pétrole, ça n'existe pas, par exemple. Pour donner un propos un peu plus large. Et donc, ouais, à travers son histoire, Under the Wave, comme on le disait, il nous montre le désastre écologique de l'extraction du pétrole au fond des océans. Donc, que ça soit déjà sur les fonds marins en soi, mais également sur les écosystèmes et les espèces. Et donc, le jeu, il est en pas, enfin, il est créé, enfin, créé. Il est en partenariat, enfin, en tout cas, il y a un partenariat avec la Surfrider Foundation Europe, qui est une fondation qui œuvre à la protection des océans. Pourrais-tu du coup nous présenter ce partenariat et du coup dans quel cadre le jeu s'intègre du coup à cette fondation, on va dire?
Ouais, juste pour revenir rapidement sur ce que tu disais sur le pétrole, parce que c'est un truc assez intéressant. Après, je viendrai sur Surfrider, hein. Mais en fait, même le pétrole, d'un point de vue purement biologique, c'est des micro-organismes morts. Et donc, en fait, ça raconte même quelque chose sur la vie, en fait, ça revient à nous sur l'autre thématique du jeu qui est le deuil, et sur une notion un peu de cycle de la vie et du vivant, etc. Et donc, c'est aussi ça fait partie un peu des thèmes d'Under the Waves, et ça s'intégrait bien de cette façon. Et c'est quand je disais que ce sont des thèmes qui se mélangent, en fait, le deuil et l'écologie. C'est aussi de ça dont je parle, c'est comment on entrechoque ces trucs-là, etc. Excusez-moi, c'était la petite dépression sur le pétrole, pardon. Pour revenir sur Surfrider, donc nous, à Parallèle, on savait assez vite, en fait, avec ce projet qu'on voulait faire un partenariat avec une fondation. Il se trouve qu'en fait, Echo, le précédent jeu du coup du studio, avait fait un partenariat du coup à chaque jeu acheté, je crois que c'est sur le DLC, mais chaque DLC acheté c'était un arbre planté par exemple avec une fondation, etc. Ça s'est très bien passé, c'était intéressant parce que ça a apporté quelque chose un peu à tout le monde, ça donne du sens aussi au propos. Ça rend le. Enfin. Ça va un peu dans une démarche de pas juste être des donneurs de leçons quoi. On fait l'effort d'aller un peu au bout de ce qu'on dit. Et donc assez vite on savait qu'on voulait aller vers travailler avec une organisation. Donc on a rencontré plusieurs organisations, etc. Et puis on a rencontré assez vite en fait Rémi Touja, du coup, qui est le responsable de toute la présence en fait en ligne de Surfrider Europe, avec qui en fait le courant est très bien passé. Excuse-moi du jeu de mots, mais voilà. C'est quelqu'un qui est un joueur déjà, qui connaît bien les jeux vidéo. Et c'est quelqu'un qui était très. Alors, Surfrider, pour présenter rapidement, excuse-moi, j'en ai même pas parlé, mais
D'accord.
à la base, c'est des surfeurs à Biarritz. Et en fait, c'est devenu quelque chose de très grand, qui maintenant est une grosse fondation à l'échelle mondiale, en fait, qui œuvre sur la protection des océans et qui sont surtout experts dans l'impact de l'homme sur l'océan. C'est-à-dire que pour les différencier par exemple d'un Greenpeace, ça va être plutôt la préservation de la faune et de la flore. Surfrider, leur spécialité, c'est plus l'impact de l'homme sur l'océan et la pollution plastique, etc. Voilà. Et donc, du coup, on a rencontré cette personne, Rémi, qui était joueuse, etc. Forcément, le courant est passé très vite. Et surtout, en fait, ils ont très bien compris le projet, en fait, et ce qu'on voulait amener. Pour eux-mêmes, c'était important, en fait, de pas faire un jeu Surfrider, quoi. On n'est pas un jeu étiqueté Surfrider, financé par Surfrider, ou quoi, pas du tout, quoi. On est un jeu qui intègre subtilement Surfrider dans son univers et qui, en fait, essaye de mettre de la lumière sur cette organisation. Et donc, pour eux, c'était important de faire un jeu d'abord. Et après de parler d'écologie. Donc du coup, nous, c'était parfait par rapport à ce qu'on voulait faire.
Du coup, dans le cadre du partenariat, la fondation, elle vous a apporté une aide dans la création du jeu, notamment à travers des connaissances sur les océans.
Oui, exactement. On parle du coup de pollution dans Under the Waves, on parle de pollution plastique notamment. Et en fait, on a tous un peu. En fait, on a des idées préconçues sur ce que c'est que la pollution. Alors, c'est souvent pas non plus des idées fausses, hein. Mais parfois il y a des petites erreurs. Parfois on s'imagine que ça c'est très grave. Ça on s'imagine que en fait on s'imagine même pas que ça existe. Et en fait ça nous permet d'avoir des faits, ça nous permet d'avoir des chiffres, ça nous permet d'avoir des données et d'avoir des gens qui vérifient un peu que ce qu'on fait ça a du sens. C'est bête et par exemple une des premières missions qu'on va avoir dans Under the Wave, c'est une mission où un porte-conteneurs perd ses conteneurs sous l'océan. Et ça en fait. Il se trouve que, alors moi, à titre personnel, c'est quelque chose que je savais pas. Il se trouve que ça, c'est la première source de pollution de la mer du Nord. C'est des porte-conteneurs qui tombent dans l'océan. Il y en a tous les jours un nombre fou et on les abandonne, on s'en fiche parce qu'en fait il y a tellement de conteneurs sur ces camions qu'il y a une marge d'erreur en fait qui est prévue quoi. Mais ça, tous ces conteneurs qui se déversent dans la mer du Nord, c'est dramatique d'un point de vue écologique quoi. Donc ça c'est intégré de cette façon sous forme de mission. Et après la question c'est, alors du coup le premier niveau de lecture c'est ça, on l'intègre sous forme de mission, on sait qu'on le dit même pas, on dit pas que c'est la première source de pollution ou quoi. Par contre, si le joueur va explorer, il va pouvoir trouver des informations, des petits logbooks et des petites informations qui nous disent que oui, ça, ça représente ça, etc. Et là, on va intégrer de la data de Surfrider, et là, on va intégrer des données.
Bah, c'est vrai que c'est un truc qui est impressionnant, c'est qu'on voit vraiment énormément, au-delà des déchets purement, tu sais, on va dire des microplastiques et des bouteilles, etc., qu'on peut trouver, on trouve énormément, que ce soit des épaves, mais également, du coup, bah, là, tu parles des conteneurs, et c'est vrai que la zone des conteneurs, une fois qu'ils sont tombés et qu'ils sont là, du coup, et... Bah évidemment, ils ne sont pas ramassés. C'est vrai que du coup, la zone après est très surchargée et il y a vraiment beaucoup de déchets dans ce coin-là. Et c'est quelque chose, je pense, qui peut vite marquer. Parce qu'on se dit, ouais, vraiment, il y a une concentration là sur cette zone d'icônes, mais du coup, de déchets.
Bah, et en plus, c'est intéressant d'un point de vue. C'est intéressant d'un point de vue gameplay parce qu'en plus, pour beaucoup, à nous, c'est quelque chose, on s'en est rendu compte sur les build tests. C'est une frustration pour les joueurs de voir cette zone qui était belle avant et qui maintenant, il y a des conteneurs dedans. Les joueurs me demandaient, en fait, mais pourquoi on ne peut pas les enlever quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors du coup on y a répondu en ajoutant d'autres mécaniques un peu qui permettaient d'aller dans ce sens là mais en gardant toujours nos points de vue qu'en fait non là il y a un gros conteneur, toi t'es un petit plongeur quoi, tu vas pas, ça pèse plusieurs tonnes et donc c'est intéressant parce que ça crée cette frustration un peu pour les joueurs et bah, du coup ça veut dire quelque chose quoi.
Mais du coup pour poursuivre un peu sur cette thématique, le développement d'un jeu donc c'est, j'en parlais tout à l'heure, c'est souvent une affaire de compromis et de concession. Est-ce que vous auriez aimé aller encore plus loin sur la thématique de l'écologie, notamment d'un point de vue gameplay? Et est-ce que du coup vous avez dû assouplir certains aspects du jeu pour trouver un équilibre du coup entre le propos et l'aspect on va dire, purement ludique du jeu?
Pour le coup, on a essayé de. Alors, on aurait forcément toujours pu faire plus, on pourrait toujours aller plus aussi dans le. Enfin, on peut raconter plus de choses sur l'écologie, on peut aller. En plus, on peut raconter plus de choses de façon différente aussi. Mais après, ça a été l'approche un peu qu'on a choisie. On savait en fait que. En fait, Anders Wave, c'est à la fois l'écologie et à la fois le deuil, et on voulait que les deux restent à niveau égal. Il fallait pas que l'un emporte l'autre, donc on s'est un peu, enfin on s'est bridé sur l'écologie. On aurait pu en dire plus sur l'écologie, mais comment il fallait pas perdre la thématique du deuil, c'est plus une question de balance. Mais une des choses qu'on a fait après pour rajouter un peu sur le propos écologique, qui sont des choses presque hors du jeu par exemple, mais déjà très tôt en fait on a fait un audit de consommation carbone nous au studio pour déjà calculer la consommation carbone du studio, ce qui est assez intéressant en soi. Mais surtout en fait on a intégré par exemple dans le jeu, dans les options graphiques notamment, on a un mode éco qui veut dire économique, écologique, ça veut dire ce que vous voulez. C'est un mode qui va réduire en fait la résolution du jeu et la taille des textures et le stream des textures, etc. Ce qui veut dire que le jeu il va consommer moins d'électricité quand il va être joué, ce qui veut dire que le jeu est plus écologique en fait. C'est bête hein, d'y penser comme ça, mais en fait c'est vrai que jouer à un jeu vidéo ça consomme en énergie, l'énergie c'est une problématique future, etc. Et plus les jeux sont réalistes, plus les jeux sont beaux, plus ça consomme. Et donc du coup, ça nous permet aussi d'apporter un peu ce truc-là, même en dehors du jeu, en fait. Là, on ne joue pas plus de Stan qui ramasse du pétrole sous l'océan, quoi. On parle du joueur qui joue au jeu devant sa télé. Et donc nous, ouais, la démarche écologique, elle peut aussi passer là.
Est-ce que ce mode, c'est le mode de base du jeu ou pas? Et est-ce que tu aurais une estimation, on va dire, du gain en énergie, du coup, entre ces deux modes? Par rapport, en termes de consommation, en termes de puissance, en watts de l'appareil.
Alors c'est pas le mode de base du jeu, parce que quand même la plupart des joueurs le prendraient mal.
Effectivement, mais c'est vrai que ça pourrait être un choix qui, par rapport au propos du jeu, qui serait légitime en fait de base de le mettre. C'est un choix fort. Hein.
Ce serait un choix très fort, mais très risqué aussi d'un point de vue politique. On sait maintenant en plus, des jeux qui se font review bombes ou qui se font incendier pour la moindre petite feature, il faut faire un peu attention avec ce genre de choses-là. Et ensuite, est-ce qu'on sait l'impact réel en watts? Je suis pas sûr qu'on l'ait réellement calculé, pour le coup. Il y a des études qui ont été faites sur d'autres jeux, en fait. Ça nous a été présenté en fait, par des gens qui. Cette feature-là, ça nous a été présenté par des gens qui travaillent vraiment sur ces sujets-là. Donc des études ont été faites sur d'autres jeux, pas sur le nôtre. Et ce serait en plus très compliqué à calculer réellement en fait, hein, parce que ça dépend de beaucoup d'autres facteurs externes. En revanche, le fait qu'il y ait un gain, c'est indéniable. Et surtout, là aussi où il faut pondérer, c'est qu'on peut se dire oui, à titre personnel, le gain qu'on fait, il n'est pas énorme. si on multiplie par le nombre de joueurs potentiels, là ça devient intéressant.
Mais c'est vrai que moi par exemple je m'étais intéressé à l'écologie, dans, enfin à l'impact environnemental du jeu vidéo à travers un petit dossier. Et c'est vrai que par exemple j'avais été impressionné des progrès qu'on avait fait en termes de consommation à l'utilisation entre nos consoles. En fait nos consoles ont beau être de plus en plus puissantes, la consommation en watts a tendance à réduire en fait. Et ça c'est une donnée qui est pas, qui peut paraître surprenante, mais en fait là où il y a quelques années c'était absolument pas une... quelque chose qui a été regardé, aujourd'hui c'est vraiment un aspect, alors c'est pas un argument marketing à proprement parler, mais c'est quelque chose qu'on note, ouais, tout à fait.
Et après, alors c'est pas, malheureusement c'est pas la seule métrique, hein, bah, après nous c'est pas notre cas sur Anders Wave, mais pour des jeux par exemple multijoueurs, il faut commencer à penser au coût de serveur qui reste allumé tout le temps, etc. Il y a beaucoup de choses hein, qu'il faut, si on devait mesurer l'impact vraiment écologique du jeu vidéo, il y a beaucoup de choses à prendre en compte.
Mais surtout dans une industrie qui évolue vers, de plus en plus vers le cloud gaming, pour moi, il y a un, à titre personnel, je pense qu'il y a un vrai questionnement à avoir au-delà de, du confort d'utilisation qu'on aurait à pouvoir jouer partout en 5G, voire peut-être dans 10 ans ou 20 ou 15 ans en 6G. Moi, je me demande la pertinence que ça a dans nos sociétés de jouer en cloud gaming, sachant que l'impact est, moi, de ce que j'avais pu trouver, est encore pire. Alors, c'est vrai que les sociétés de jeux, enfin les grands éditeurs et les grandes sociétés de jeux vidéo sont un peu opaques par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'entends que c'est l'avenir, moi, ça me fait toujours tiquer, justement, quand je vois que de plus en plus, enfin, tous les drames écologiques et tous les enjeux liés à la consommation d'énergie, moi, c'est vrai que je me dis... Est-ce que le cloud gaming c'est vraiment l'avenir? Bah moi j'ai pas envie que ça soit mon avenir en tout cas.
La personne qui était venue nous présenter nous un peu toutes ces idées là sur, bah, sur même l'impact écologique d'un jeu vidéo quoi, elle nous avait dit, elle donnait cet exemple, dit que le vrai jeu écologique aujourd'hui, dans sa démarche, enfin pas dans son propos mais dans sa démarche d'utilisation, en fait c'est Zelda, c'est Breath of the Wild, ou enfin maintenant le dernier la Tears of the Kingdom. Parce que c'est des jeux pas forcément ultra lourds, avec des textures à streamer pas très très lourdes, ce sont des jeux sur une console mobile qui consomment très très peu, et en fait ça, ces jeux-là, ça tournera toujours, enfin ça tourne en plus sur des vieilles machines, enfin sur des vieilles machines c'est pas vraiment le cas, ça tournera toujours sur la Switch, mais par exemple s'il y a cette notion hein, sur les jeux récents de plus en plus beaux ou quoi, il faut toujours améliorer son matériel, et donc du coup bah, ça fait beaucoup d'obsolescence, beaucoup de matériel qu'on abandonne, etc. Des jeux comme ça qui tourneront toujours facilement, etc., ça c'est... Alors vous en faites ce que vous voulez de cette info, mais c'est... peut-être que vous ne serez pas du tout d'accord avec ça. Mais pour cette personne qui nous a présenté un peu le sujet, c'était ça le jeu écologique quoi.
Non mais tout à fait, mais pour compléter ton propos, moi du coup des études que j'avais fait, alors j'ai plus les chiffres en tête et je sais plus si j'en avais, mais en gros, et c'est relativement évident en fait, les jeux indépendants, parce que pour des raisons de contraintes techniques liées à des budgets plus faibles en fait, font que globalement ils sont moins gourmands technologiquement. Et au final, du coup, ils consomment beaucoup moins d'énergie sur nos machines. Et donc, au final, être un joueur écolo, c'est jouer à des jeux indépendants. Ce qui a un double intérêt de mon point de vue, parce que c'est dans la scène indépendante qu'on trouve les expériences les plus innovantes. Donc, en plus d'avoir les jeux les plus intéressants et les plus amusants, de mon point de vue, on fait double coup et on est, entre guillemets, plus écolo quand on joue. Donc c'est vrai que c'est un truc qu'il faut considérer aussi. Si vous aimez le jeu indépendant, bah sachez que vous êtes plus écolo que les joueurs qui jouent à des AAA.
C'est presque un argument de vente.
Et ouais, non, mais c'est vrai, et il me semble que la différence est vraiment notable. Alors j'ai plus du tout en tête les chiffres que j'avais trouvés, mais ça mériterait, on va dire, de pousser le sujet.
Oui, j'ai pas de chiffres en tête non plus. Hein. Après, il faut savoir que c'est quelque chose qui est vraiment en train, enfin ce sont des sujets qui sont en train d'évoluer et vraiment d'être... d'être amené réellement, même dans la production. Aujourd'hui, voilà, si on veut récupérer, par exemple, à l'échelle française, on pourrait se dire qu'est-ce qui se passe ou quoi. Maintenant, voilà, faire un bilan carbone pour les entreprises qui veulent faire du jeu vidéo, c'est nécessaire pour récupérer des financements, par exemple, du CNC ou quoi. Donc, ce sont des choses voilà, qui commencent à être amenées vraiment dans la discussion de façon concrète.
Tu le disais, donc, de ce bilan carbone, je voulais y revenir. Du coup, vous vous êtes imposé, du coup, est-ce que vous avez mis concrètement des choses en place au sein de votre structure pour justement réduire, je sais pas moi, votre consommation d'énergie, assurer un meilleur tri des déchets en interne, etc., etc. Du coup.
Alors il se trouve que non, parce que suite à nos résultats du bilan carbone, il était très très bas, ce qui s'explique par plusieurs choses en fait, hein, c'est pas non plus anormal. Mais déjà, nous, on a un tout petit studio, enfin, en termes de local, même de mètres carrés. C'est pas un gros truc qu'il faut chauffer en permanence, etc. En plus, avec le télétravail, il y a beaucoup de jours où il n'y a personne, et donc, du coup, on ne le chauffe pas, etc. Donc, l'électricité est plutôt faible. Ensuite, le bilan carbone, pour expliquer un peu aux gens comment ça fonctionne, c'est qu'on calcule concrètement ce que ça coûte en énergie. Par exemple, pour une entreprise qui crée des jeux, tous les utilisateurs du jeu sont comptés dans le bilan carbone. C'est-à-dire que si on avait sorti un jeu avec 5 millions d'exemplaires et qu'on sait que le jeu coûte tant à être lancé, on va dire, ok, dans notre bilan carbone, ça coûte 5 millions d'exemplaires de ce truc-là. Il se trouve que nous, on n'a pas vendu des jeux à 15 millions d'exemplaires ou quoi, donc en fait, Under the Earth, c'est notre premier gros jeu. Et donc du coup, en fait, bah forcément, on a un bilan carbone plus petit que va l'être un Ubisoft qui est joué par, je pourrais même pas estimer un nombre de joueurs, quoi.
Oui, parce que ce qu'il faut prendre en compte, en fait, avec aussi un gros comme Ubisoft, c'est qu'ils ont l'aspect, ils ont déjà toutes les ventes de jeux physiques, les ventes de jeux des maths, donc avec les multiples téléchargements qui consomment de l'énergie. Potentiellement, le jeu, tu vas le désinstaller, le réinstaller des années plus tard. Et puis, de plus en plus, maintenant, le cloud gaming, qui du coup induit une consommation supplémentaire avec les serveurs. Et donc, c'est vrai que par rapport à un jeu, un plus petit jeu qui est déjà... Là, pour le coup, il y a une version physique, mais qui a même pas de version physique. C'est vrai que du coup, forcément, pour expliquer aux gens, il y a forcément un impact qui est moindre au-delà du nombre pur de copies, parce qu'il y a aussi plein de moyens de vente différents pour un Ubisoft que n'aura pas forcément les studios indépendants.
C'est ça. Mais donc, du coup, pour répondre à ta question de est-ce qu'on a vraiment appliqué des choses ou quoi, en fait, pas vraiment, parce que c'était difficile de faire vraiment moins, quoi, en étant beaucoup au télétravail ou quoi. Ce qu'on pourrait mettre, par exemple, appliquer comme mesure assez concrète, ce serait par exemple de limiter la taille des envois de données par exemple par jour. Ça pourrait être ce genre de choses là. Mais même là, en fait, ça commence à mettre des process. Enfin, il faut pouvoir mesurer ça, il faut mettre ces process là, c'est compliqué à vérifier, etc. Et surtout, en fait, à notre échelle, c'est pas vraiment très intéressant, quoi.
À titre personnel, du coup, est-ce que tu aimerais continuer à développer des jeux autour de cette thématique ou t'as le senti, enfin, ou est-ce que tu aimerais aujourd'hui découvrir d'autres horizons créatifs?
À titre personnel, aucun souci de continuer à travailler sur l'écologie, mais j'ai aucun souci aussi à faire d'autres choses, en fait. C'est pas vraiment une contrainte, l'écologie, c'est vraiment c'est un sujet, et ça permet de faire énormément de choses très différentes. En fait, on pourrait faire un Tetris écolo, hein. Donc du coup, en fait, c'est plus... Enfin, c'est une couleur, quoi. C'est quelle couleur on veut donner à notre projet. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. L'écologie, c'est un sujet on ne peut plus moderne. Il y a énormément de choses à raconter. Il y a énormément de façons de les raconter. Après, il faut aussi mesurer l'impact aussi de ce qu'on raconte. Enfin, on n'est plus non plus dans une phase aujourd'hui dans le monde où faire de la sensibilisation, c'est suffisant, quoi. Maintenant, il faut prendre des actions, etc. Et donc, faut aussi en tant que créateur enlever la casquette de super-héros, quoi. On ne va pas sauver le monde en parlant d'écologie. Mais c'est bien d'en parler, quoi.
Non, mais c'est vrai que vu qu'il y a aussi, au-delà de l'inconscience, on va dire, de certains, il y a aussi un manque de connaissances, même encore aujourd'hui, comme tu le dis, on arrive à une période où des actions doivent être menées, mais elles ne sont pas menées en partie parce qu'il n'y a pas une conscience pleine de la société au-delà des enjeux, sur l'impact dramatique que ça va avoir, que ça soit sur les écosystèmes, etc., ou même le réchauffement climatique en soi. Les gens ne se rendent pas compte à quel point, en fait, ça va provoquer, même côté purement, d'un point de vue purement humain, des millions de morts, en fait, à terme. Et ça, c'est un impact dramatique que... Bah, j'ai l'impression que, moi, les gens s'en fichent, en fait. Donc, c'est vrai que c'était intéressant de savoir si tu avais envie particulièrement de continuer ou pas. Parce que c'est vrai que tu te dis qu'une fois que tu rentres dedans, tu peux peut-être un peu arriver à t'enfermer dedans parce que c'est un truc qui prend beaucoup de gens au trip, notamment notre génération, notre jeune génération. C'est quelque chose qui est de plus en plus, qui devient une source même d'anxiété. Donc c'est vrai que.
Oui, c'est ça, c'est un sujet moins joyeux que qu'un jeu sur le cirque.
Ouais, effectivement. La seconde grande thématique du jeu qui est abordée dans le jeu, c'est le deuil. L'association de ces deux thématiques, au premier abord, elle peut paraître étonnante. Tu l'évoquais, finalement, elle se marie plutôt bien. Est-ce que ça vous est venu subitement et, on va dire, de manière assez naturelle au moment des premiers concepts du jeu, que vous aviez envie de parler de ces deux thématiques?
Alors, ça ne s'est pas venu dans les premiers concepts du jeu. Parce que réellement, les premiers concepts du jeu, c'est un plongeur sous l'eau qui nettoie du pétrole. Et il y avait un peu que ça. C'est dès qu'on a commencé à développer une couche narrative, en fait. Dès qu'on a commencé à se poser une question de peut-être que ce jeu pourrait raconter quelque chose, qu'est-ce qu'il allait raconter ? Tout d'un coup, on a un personnage. Alors ça s'inspire aussi pas mal du vécu, en fait, hein, de plusieurs personnes de l'équipe, etc. C'est quelque chose d'assez personnel. Et c'est aussi, en fait, cette notion, bah, ce personnage, Stan, sous l'eau, qui il est ? on se rend compte qu'en fait, bah, c'est assez, enfin, c'est un peu un cliché, mais c'est aussi un peu vrai. Beaucoup de gens qui acceptent ce genre de mission, qui partent vivre 6 mois sur un bateau, 10 jours sous l'eau ou quoi, c'est des personnes qui cherchent à fuir quelque chose, qui cherchent à fuir des problèmes. Et donc, bah, le deuil ici, le deuil d'un enfant, c'est assez clair et assez explicite comme problème. C'est doux pour nous, c'était pas forcément quelque chose qu'on veut cacher d'ailleurs dans le jeu, hein. On le sait qu'on le dit pas nécessairement dès le début du jeu que le personnage fait le deuil d'un enfant, on dit qu'il a des problèmes quoi. Et c'est quelque chose qu'on découvre relativement assez vite, c'est pas une surprise. Mais donc oui, pour nous c'était assez important de parler de ça, parce qu'en plus de ça apporte un angle plus personnel et plus proche de quelque chose de plus humain. En fait, quand on parle d'écologie, on parle de quelque chose de très global, on parle de l'océan qui est gigantesque, on parle du monde et de la société, quoi. Quand on parle de deuil, on parle d'un humain et de ce qu'il pense. Et donc ça crée un énorme contraste, et ce contraste aide à rendre ces choses-là plus fortes, d'une certaine façon. Donc oui, c'était un peu ça la démarche. C'était important en plus pour nous qu'on ait un personnage, qu'on soit proche d'un personnage. Déjà parce qu'en fait, bah, être sous l'eau, sous l'océan, c'est un peu impressionnant. C'est-à-dire que l'océan, c'est quelque chose de très grand. C'est quelque chose qui a l'air très vide et très inconnu. On n'y voit pas grand-chose, etc. Plein de gens ont peur de l'océan. En fait, ça s'appelle la thalassophobie. Et même ceux qui n'ont pas la thalassophobie sont en général un peu impressionnés quand on leur dit de rentrer dans une grotte ou quoi. C'est impressionnant, l'océan. Et le fait d'avoir ce personnage-là auquel on peut s'accrocher, ce personnage-là qui a des problèmes qui sont pas j'ai peur des poissons, mais qui sont ses problèmes à lui, etc., et qui a ses discussions en interne, etc., ça aide aussi à apprivoiser l'océan et à faire en sorte que pour nous, l'océan, c'est pas. C'est l'environnement dans lequel on vit, c'est pas un ennemi, c'est pas un ami, c'est quelque chose de vivant, quoi. Et donc, c'est quelque chose qu'on apprend à apprivoiser, on apprend à vivre avec, et on veut pas que ce soit menaçant, on veut pas que ce soit effrayant, quoi, on n'est pas un jeu d'horreur.
Pour compléter un peu de ce qu'on disait tout à l'heure sur l'écologie et l'intégration de mécaniques de jeu sur cette thématique, quelles sont les mécaniques qui se rattachent pour toi à la thématique du deuil du coup? C'est vrai que c'est peut-être un peu moins facile à faire que l'écologie, je me dis. Et c'est vrai que moi, comme ça, sur une première lecture, on va dire, j'ai pas trop réussi à identifier, mais je suis peut-être passé à côté. Donc je te pose la question, est-ce que vous avez réussi à intégrer, on va dire, des mécaniques et à faire un lien avec le deuil du coup de manière directe?
C'est plus difficile de parler de mécanique réellement parce qu'on parle de d'émotions et de enfin vraiment de quelque chose de très j'ai envie de dire abstrait dans le sens où c'est pas facile à décrire mais en fait c'est très réel. Enfin voilà, je pense que tu as un peu l'idée. Donc on parle pas forcément de mécanique de la même manière qu'en fait il y a des mécaniques pour l'écologie, ce que les mécaniques pour l'écologie, on a des choses à apprendre, à démontrer qui sont très concrètes, etc. Pour le deuil, c'est plus quelque chose d'assez personnel et d'assez dans l'empathie. Donc ce qu'on fait en fait c'est plus quelque chose qui va dans la démarche globale du projet, c'est aussi une notion de créer cette atmosphère d'introspection. En fait, il faut réussir en game design, mais même dans le développement du jeu, à créer cette atmosphère d'introspection, ce moment où tu es. Bah déjà, la solitude, se créer ce sentiment de solitude, se créer ce sentiment de silence, se créer ce sentiment de repos un peu, de contemplation aussi. Bah déjà, le monde de l'océan, il est parfait pour ça. Hein, quelque chose de silencieux, où on est tout seul. Quand on est sous l'eau, c'est un peu ça, quoi. Et du coup, en game design, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de ralentir le rythme. C'est-à-dire qu'on va pousser le joueur à prendre son temps. Tu parlais tout à l'heure, en parlant d'écologie, que t'avais pas envie de booster avec ton sous-marin, parce que ça polluait. Alors, on n'avait pas forcément en tête que les joueurs ne boosteraient pas du tout tout le jeu, parce que... Bah, ils font ce qu'ils veulent. C'est ça. Non, mais l'idée c'est aussi de se dire, bah, en fait, si ça encourage les joueurs aussi à ne pas booster et à prendre leur temps, c'est bien. C'est ce qu'on veut. Quand on est dans notre module de vie, on marche plutôt lentement et on est poussé à faire des actions assez, comment dire, minimes. C'est-à-dire que le matin, on va nous dire de prendre ton café et après, le joueur, il peut aussi prendre du temps. Alors, on peut trouver une guitare, on peut jouer à la guitare, on peut faire des grimaces devant le miroir. C'est plein de petites actions en fait qui ont un sens. Quand on se dit que en fait, c'est fait pour que le joueur prenne son temps et prenne le temps d'être à l'aise. C'est-à-dire qu'il faut pas, on n'est pas un jeu où toutes les 5 minutes ça fuse. On va ralentir un peu le rythme avec plein de, alors c'est plein de petites mécaniques enfin moins des mécaniques et plus des moments scriptés ou des moments, enfin des choses qu'on construit sur des moments quoi. C'est pas facile à décrire. Ça passe aussi beaucoup par la musique et par la façon dont on introduit la musique. On sait en fait à quel moment dans la narration et dans le walkthrough on veut prévoir des moments waouh, un peu musicaux quoi, des moments où on va vraiment tu vois, c'est le moment où le dauphin il sort de la surface, c'est pas dans le jeu, mais tu vois c'est ce moment-là où c'est le grand moment de respiration que peut apporter une musique, mais il y a aussi des moments de silence qui peuvent être très très forts. Et donc c'est difficile à mettre des mots dessus, c'est quelque chose qui est très lié au ressenti. D'un point de vue game design, c'est passionnant de travailler sur ça parce que c'est difficile à mettre des mots dessus. C'est quelque chose aussi de très. De créer une atmosphère pour le joueur.
Non mais finalement ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est que le game design c'est plus large que concevoir des mécaniques, des niveaux, faire du level design. Comme tu le disais, comme tu le disais au début, c'est une notion abstraite et du coup ça englobe plein de choses et c'est pour ça que, comme on le disait au tout début, c'est à l'interface, au carrefour de tous les métiers. Parce que ce métier-là, en fait, finalement, créer une atmosphère, c'est du game design, en fait. Si je devais résumer ton propos, on va dire.
C'est ça. Bah alors, c'est du game design, c'est aussi, bah, quand on parle d'intégration de la musique, c'est aussi, gros travail pour les musiciens et pour le compositeur, hein, c'est félicitations. Mais en fait, oui, c'est réfléchir en game design, comment on le fait et pourquoi on le fait. Et c'est aussi pour ça que nous, du coup, par les studios, je disais qu'on était très tech et qu'on allait beaucoup dans le moteur pour intégrer les choses. Quand on veut tester quelque chose, une atmosphère ou quoi, c'est difficile d'écrire quelque chose sur un document et d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour nous, quoi. Il faut qu'on ait la main dans le cambouis et qu'on puisse ressentir les choses par nous-mêmes. Et c'est d'autant plus intéressant que dans la production d'un jeu vidéo, tout n'est pas là depuis le début, c'est-à-dire que un beau rendu avec des belles lumières ou quoi, ça arrive plus tard. Mais quand on veut créer une atmosphère, c'est ultra important. Et donc du coup, il faut aussi avoir pouvoir se projeter un peu, savoir quand c'est assez. C'est là où on rejoint un peu, je pense, Fumito Ueda, c'est parfois se dire ça va suffire de rien mettre, sachant qu'au moment où on se dit ça, il n'y a vraiment rien, quoi. Et que ce sera plus tard qu'il y aura la lumière et qu'il y aura des poissons. Et donc c'est un peu là, ces réflexions à faire là en game design qui sont presque, enfin, en termes de ressenti, c'est des prises de risque, quoi. Il faut avoir confiance au fait que ça va marcher plus tard.
Moi ça me fait penser en fait à une séquence de jeu où en fait c'est une mission vers la fin du jeu, alors là ça spoil carrément pour le coup, où on contrôle Stan et du coup c'est après le gros accident pétrolier qui arrive, je sais pas moi, un peu plus de la moitié du jeu. Et en gros, Stan, du coup, pour expliquer aux auditeurs, il va, enfin, pour vous resituer, il va chercher la petite, je sais plus si c'est une orque ou une otarie, ou enfin bref, un animal qu'on avait croisé sur les premiers jours, en fait. Et du coup, on va avoir toute une séquence qui est assez longue. Hein. Moi, elle m'avait paru vraiment longue parce qu'en fait, on cherche, donc, du coup, dans un niveau. L'animal, on l'explore. Et c'est vrai qu'au final, ça s'apparente presque à du walking simulator, c'est-à-dire que on se contente de se frayer un chemin, on va dire, dans cette base, mais finalement il y a un truc très fort parce que bah, du coup ça fait le lien avec le deuil en fait, parce qu'en fait on va découvrir l'animal mort à la fin, et donc ça crée un truc très fort du coup entre, je trouve, l'écologie et du coup la thématique du deuil qui est relative à Stan, et ça permet de créer un parallèle intéressant entre ce que peut ressentir le joueur et ce que ressent du coup notre avatar en jeu.
Oui, bah c'est très intéressant ce que tu dis, et surtout ça montre, en fait, c'est aussi un des enjeux du projet, en fait, c'est qu'on est dans l'océan. L'océan, on est très libre dedans. Et donc pour nous, en termes de rythme, c'est la question, c'est de se poser quand est-ce qu'on va refermer l'expérience. Typiquement là, on a quelque chose de, enfin, on est sur un moment très narratif et il faut raconter quelque, enfin, il faut, il y a quelque chose qui s'est passé de fort. Et donc du coup, bah, on va nous mettre dans un niveau et tout se referme petit à petit. C'est vraiment, on ferme notre vision périphérique et on est un peu dans le tunnel, quoi. Et ça permet, bah, de se focus sur quelque chose, et en fait c'est beaucoup ça les démarches un peu qu'on peut avoir en termes de rythme, c'est quand est-ce qu'on ouvre, quand est-ce qu'on ferme l'expérience.
Personnellement, donc, comme je disais, j'ai établi un lien entre les deux thématiques, donc d'un côté le deuil d'un enfant, en l'occurrence la fille de Stan, et l'écologie, car d'un certain point de vue, en fait, dans nos sociétés, on doit faire le deuil de la planète qu'on a connue parce qu'on l'a profondément changée et que du coup on pourra plus faire les mêmes choses. Et du coup, c'est une question pas évidente, j'en ai conscience, mais penses-tu que le jeu vidéo, il a encore sa place, et de manière générale, le divertissement polluant, on va dire, dans un monde où les économies d'énergie seront la base de nos sociétés futures?
C'est une question pas évidente. Ouais, c'est vrai.
Mais c'est très personnel, hein, c'est plus d'un point de vue philosophique sur le long terme. Je dis pas qu'il faut supprimer le jeu vidéo du jour au lendemain, mais notamment, ça fait un lien avec ce que tu disais sur les grosses productions qui polluent énormément, parce qu'il y a toujours cette course à la technique toujours plus importante qui te force à acheter des nouvelles machines, etc.
À titre personnel, moi je pense que le médium, il va devoir évoluer. De quelle façon je suis bien capable d'y répondre? Est-ce que, enfin, je pense pas, je pense qu'on n'arrivera jamais au stade où tout le monde devra jouer à la playdate, quoi. Même si c'est vachement bien la playdate, hein, mais je veux dire, ce sera, je pense pas qu'on va repartir vers ça. Est-ce qu'il a encore sa place? Je ne pourrais pas te dire. Eh ben, c'est à peu près évident, de toute façon, le jeu vidéo c'est un divertissement. On n'est pas sur quelque chose qui, sur la pyramide de Maslow, on est quand même relativement haut, quoi. S'il faut d'abord penser à se nourrir et à mettre de l'énergie dans le frigo, on fera ça avant, quoi. Donc ouais, quelle est la place du jeu vidéo? Je pourrais pas le prédire. Je pense il faudra qu'il y ait une évolution dans tous les cas, au moins sur les méthodes de production.
Moi, j'ai un truc que j'ai pensé pendant que tu parlais, c'est le rapport à l'exploration, et notamment au rythme. Tu disais que, enfin, t'évoquais qu'il fallait par moment trouver des moments de resserrement. Dans le petit monde ouvert, ça a été une difficulté en termes de production de trouver le bon rythme à avoir pour pousser, en termes d'exploration du joueur, parce que c'est vrai que ça peut prendre relativement beaucoup de temps au final de quand, si on se prête au jeu, de chercher les épaves, etc., et tous les petits trucs sympas qu'on peut trouver dans le monde.
Oui, ça oui, c'était un certain challenge. On a fait un petit monde ouvert en effet. Bah, c'est un challenge pour plusieurs raisons. Bah, d'abord, une question technique, il faut que ça tourne sur des consoles. Bah, la PS4, maintenant, elle a un peu plus de 10 ans, il me semble. C'est bête, hein, mais ça. 2013, ah bah pile 10 ans, pardon. Je l'ai vieilli. Mais bref, c'est bête, mais c'est des consoles qui maintenant commencent à dater. Il faut que ça tourne sur ces consoles-là d'un point de vue optimisation. En plus, sous l'océan, on peut se dire qu'on voit pas grand-chose parce qu'il fait tout sombre, mais en fait, on voit de très très loin. Donc, du coup, il faut afficher ces choses qui sont très très loin. Donc bref, ça pose plein de contraintes techniques, ça a un coût en termes de production. Et ce que tu disais, même en termes de rythme, c'est que si on veut raconter une histoire au joueur, et qu'à tout moment on peut lui dire non mais va chercher des va dans la forêt, et qu'il peut passer 10 heures dans la forêt à chasser des papillons, peut-être que 10 heures plus tard il aura oublié l'histoire, quoi. Donc c'était un peu la question de comment on fait pour éviter ce truc-là. Sachant qu'on veut quand même l'autoriser, en fait, c'est chouette d'aller dans la forêt ramasser des papillons. Je suis parti dans la métaphore, Il faut trouver ce juste milieu. Et pour nous, la réponse, ça a été au final de pas trop en faire. Pas dans le sens on met pas grand-chose, mais dans le sens déjà on force rien. On n'a même pas, en termes de grammaire, de gameplay, quand tu joues au jeu, en fait, tu as des quêtes principales et des quêtes secondaires. Et en fait, on a très peu de quêtes réelles qui sont liées à l'exploration. En revanche, tu as plein de petites icônes sur ta map, tu as plein de petits trucs qui disent qu'il y a des trucs à trouver. Et donc, du coup, tu as plein de petits appels. Mais comme t'as pas ces quêtes, tu te dis. Enfin, en fait, c'est plus un petit truc, tu te fais des petits snacks. C'est une grammaire de snacks. Tu vas ramasser 5 petits trucs, etc. Puis pendant une quête, tu vas traverser une zone, tu vas avoir plein de petites choses, tu vas y revenir plus tard. Et en fait, l'idée, c'est de créer des bulles. On crée des bulles de rythme. Si on avait créé, par exemple, 50 missions secondaires, enfin 50 ou même plusieurs missions secondaires très intriquées qui se situeraient à des endroits clés du monde, etc. Là, on aurait eu peut-être un problème, oui, de rythme. Et du coup, nous, la réponse a été déjà de linéariser l'expérience principale et de rendre l'exploration plus gratuite. Et comme elle est plus gratuite, elle est aussi plus rewardante, plus récompensante, je sais pas si ça se dit, mais oui, plus gratifiante. Enfin, c'est un meilleur mot. Plus gratifiante pour les joueurs parce qu'en fait, il va trouver des trucs, mais on lui a pas dit qu'il y avait ces trucs-là. Donc, c'est encore mieux pour un joueur.
Mais d'ailleurs, pour rebondir du coup sur ce truc de découvrir des choses dont on ne sait pas qu'elles sont là, les épaves, à moins qu'on les voit apparaître sur notre carte seulement quand on s'en est approché une fois, globalement tous les icônes sont comme ça, mais c'est vrai qu'après on peut arriver vite à une map relativement surchargée. Est-ce que vous avez réfléchi par exemple vis-à-vis de jeux comme Breath of the Wild qui justement ont une carte qui où finalement très peu d'icônes sont dessus et c'est à nous, on va dire, de mettre nos marqueurs, etc. Est-ce que vous avez envisagé avoir une approche, on va dire, plus minimaliste? Je sais que ça, je me dis que ça se prête pas forcément à tous les jeux, notamment dans l'eau où on a peut-être une moins bonne visibilité. Ça peut être une chose un peu compliquée pour trouver un équilibre et donc du coup rendre l'exploration plaisante quand même, parce qu'il y a quand même cet aspect ludique qu'on doit garder dans l'exploration.
C'est une très bonne question. C'est que c'est quelque chose qu'on avait prototypé très tôt dans la prod, d'autres façons en fait d'obtenir des informations sur le monde. Rapidement, on est tombé face à une contrainte, c'est qu'en fait, on est dans un monde sous l'eau dans lequel on a une visibilité assez réduite liée du coup à l'eau, quoi. Il y a une certaine atmosphère. Du coup, trouver des choses au loin, c'est pas forcément évident. Et quand elles sont proches, on est à 360 degrés, il y a de la grosse verticalité, on peut être au milieu de l'océan, très loin du sol et très loin de la surface, on peut être très proche du sol. Et tout d'un coup, en fait, notre rapport au monde n'est pas du tout le même, et on ne voit pas du tout les choses de la même façon. Et ça peut rendre en fait l'exploration d'un endroit très compliqué. Même trouver un élément, ça peut être plus difficile que dans un jeu classique, en fait. Donc en fait, on s'est rendu compte assez rapidement. C'est aussi partie du postulat qu'on avait, qu'on visait un public plus casual, je dis ça avec des guillemets, hein, mais c'est-à-dire qu'en termes d'exploration, on voulait une exploration plus casuale et l'expérience est principalement narrative. Du coup, on s'est dit qu'on n'allait pas forcément mettre une surcouche trop complexe sur cette exploration-là, et d'ajouter des mécaniques à la Ubisoft, tu sais, où tu vas sur les tourelles et t'as toutes les icônes, ou quelque chose plus à Zelda, où la Zelda, tu cartographies ton environnement. Ça fonctionne parce que c'est la clé, en fait, c'est le corps du jeu. Et c'est que nous, le risque, enfin, notre logique, c'était que aller vers ça, c'était prendre le risque que ça devienne le corps du jeu, là où on voulait pas que ça le devienne.
Souvent, dans les mondes ouverts, on entend la critique du fait que, bah, par exemple, Breath of the Wild est pris en exemple, mais on peut rester aussi Elden Ring maintenant. Du fait qu'en fait, dans notamment les productions Ubisoft ou PlayStation, tout est indiqué sur la carte. D'un point de vue de développement, tu penses que c'est une vraie difficulté du coup d'arriver à rendre l'exploration, on va dire, de revenir à une exploration, on va dire, plus, on va dire, pure, dans le sens où on n'aurait aucun icône. Parce que c'est vrai que souvent la critique qui est faite, c'est de dire qu'on a des icônes, du coup on connaît les endroits intéressants, mais on connaît aussi tous les endroits qui sont pas intéressants à visiter.
C'est deux approches en fait tout à fait différentes. C'est-à-dire que le sans icône, il faut être certain de la motivation du joueur. C'est-à-dire que le sans icône, l'approche sans icône, c'est, il faut se dire, c'est la motivation du joueur qui fait qu'il va trouver les choses. Ce qui est ultra intéressant, et si on veut faire... Enfin, c'est le génie de dernier Zelda, et même de Elden Ring plus récemment, c'est qu'en fait, on trouve les choses par nous-mêmes, et c'est gratifiant comme pas possible, quoi. Mais donc, du coup, ça implique de repenser différemment la façon dont on conçoit le monde. Parce que, bah, en fait, le joueur, il trouve les choses par lui-même, mais on l'a dit bien, quoi. C'est-à-dire qu'en vérité, on a bien pensé son trajet, on a bien mis des petites miettes de pain pour l'aider, pour lui faire des appels, etc. Et donc, c'est une façon de voir le monde qui est tout à fait différente. Faire des appels et des miettes de pain dans un monde sous-marin, c'était, à notre échelle, beaucoup trop, trop complexe et long en termes de prod. Et en fait, on est un petit studio indé, et c'est vrai que nous, le cœur, c'était la narration, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on est parti vraiment sur cette approche d'icône. Et surtout, l'icône, c'est une... En fait, on parlait de bulle de rythme, tu sais, tout à l'heure, et de motivation à explorer. En fait, l'icône, c'est un rappel... C'est quelque chose qui va motiver le joueur, en fait. Là où, quand on n'a pas d'icône, il faut que le joueur soit motivé par lui-même, l'icône, ça motive le joueur. Et donc, du coup, bah, c'est un peu... entre deux missions, tu ouvres ta map, tu vois qu'il y a des icônes. Tu dis, ah, mais tiens, je vais y aller. Alors que si, entre deux missions, tu sors dans l'océan et que tu vois rien, parce que bah, tu vois rien sous l'océan, tous les joueurs iront pas... Enfin, même tous les joueurs, très peu de joueurs, en fait, iront pertinemment se perdre dans un monde dont ils ignorent un peu tout, quoi.
Non, bah la réponse est claire. C'est vrai que moi j'ai un peu deux approches dans le monde ouvert. J'adore ce côté vraiment pure exploration où on n'a aucun icône. Mais c'est vrai que l'icône, en fait, c'est, pour moi, c'est limite une philosophie différente où en fait, finalement, alors, pour le coup, c'est pas le cas d'Under the Wave parce que l'exploration a un rôle, on va dire, différent. Mais c'est vrai que dans les grosses productions, AAA notamment, les gros open world d'Ubisoft, bah t'as un peu ce rapport où en fait la map, elle est certes en monde ouvert, mais en fait, c'est.
Ça change le rapport au monde, en fait.
Ouais, t'as ce côté où en fait c'est une liste d'activités réparties à plein d'endroits différents, mais du coup le cœur de jeu c'est plus l'exploration, quoi. C'est cet aspect presque bac à sable où on te dit fais ce que tu veux, t'as plein d'activités et choisis ce que t'as envie de faire, quoi.
C'est un peu ça. Après moi je suis d'accord avec toi, j'adore les jeux, hein, qui sont dans cette approche exploration pure, etc. Et il y a des choses encore extraordinaires, je pense, à faire de ce côté-là dans le futur. Mais je pense qu'il faut pas non plus. En fait, ce serait pas une bonne idée de vouloir l'appliquer de partout. Je prends des exemples récents, tu vois, c'est quel jeu que j'ai joué récemment, je crois que c'est Red Dead Redemption 2 là, le dernier, où j'avais testé ça, où j'avais vu ça, où ils ont, par exemple, c'est rajouté un mode où tu peux te déplacer mais sans aucune map, sans aucune indication, et en fait c'est juste les gens qui te disent où aller, quoi. Et tu vois, ça a été rajouté un peu à la suite de Breath of the Wild et du gros succès, il me semble, et en fait c'est injouable. Enfin, ça va être, c'est le jeu est pas fait pour, est pas pensé comme ça, et donc on se rend compte qu'en fait, si le jeu est pas pensé comme ça, ça marche pas du tout cette approche. Ça te demande de repenser le jeu entièrement.
Mais je trouve que Red Dead a un côté très fort, que même s'il t'indique certaines choses, il y a beaucoup de choses qui t'indiquent pas, et t'as quand même ce truc de découvrir le monde
oui.
Qui marche bien. C'est-à-dire que quand tu t'approches d'un point d'intérêt, ok, il y a un icône qui apparaît, mais quand tu t'en éloignes, il va disparaître. Et il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de de trucs aléatoires sur la map, mais qui sont vachement bien racontés. Enfin, c'est des vrais moments de narration.
Et puis, ils ont une richesse d'interaction, c'est-à-dire qu'il se passera toujours des choses différentes de partout, quoi. Ils ont un nombre d'événements qui peut se passer, c'est impressionnant.
Mais du coup, toi, d'un point de vue personnel, tu penses vraiment que le monde ouvert, on va dire, avec des icônes, il a encore sa place? C'est parfois un peu le débat qu'on a, où on dit, en fait, cette formule, c'est une formule qui est, on va dire, dépassée, et qui maintenant, qu'on arrive justement à aller au-delà et à se diriger vers ce truc du monde centré sur l'exploration. Est-ce que tu penses pas que des jeux, par exemple, je sais pas, moi je pense à Horizon qui a plein d'icônes, ils gagneraient pas à être linéaires, par exemple?
C'est intéressant comme question. Moi, à titre personnel, je pense qu'il a encore complètement sa place. Mais pas pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire que maintenant, on a montré que pour des joueurs plus exigeants, on pouvait faire beaucoup mieux. Pour des joueurs qui veulent faire de l'exploration, qui veulent se perdre et qui veulent s'engager suffisamment.
Tu penses que cette formule, c'est moins bien?
Oui, je pense qu'en fait, pour quelqu'un qui veut s'engager dans l'exploration, etc., c'est plus intéressant de trouver les choses par soi-même. En revanche, faut penser aussi qu'un jeu comme Horizon, c'est pas pensé pour des joueurs... Enfin, si, c'est pensé pour des joueurs très exigeants, mais c'est pensé pour un panel de joueurs très très large, y compris des gens qui sont pas des joueurs réguliers, c'est-à-dire des gens qui jouent pas à deux jeux vidéo par jour, quoi. Ou même par semaine, en fait. Et donc, du coup, faut penser que cette approche d'exploration sans rien, elle peut être plus difficile à prendre en main, plus difficile à accepter pour des joueurs plus casuels. Dans l'ensemble, en fait, il y a des jeux pour tout le monde, et il faut faire des jeux pour tout le monde. La meilleure approche pour moi, c'est de donner l'opportunité de d'explorer librement et d'enlever la HUD, par exemple. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on fait, hein, dans The Waves, on peut enlever la HUD, tu vois. Mais il y a toujours des gens qui voudront, en fait, quelque chose de différent, en fait, c'est normal.
Mais ce qui est cool, c'est que ce qu'on voit, en fait, et après je recentrerai un peu sur le sujet, c'est que Breath of the Wild, ce qui est trop bien, en fait, c'est que, en fait, il te montre que même pour des joueurs un peu plus casual, on arrive à faire des expériences qui marchent. C'est-à-dire que je suis quasiment sûr que tu fais jouer à un enfant Breath of the Wild, un enfant de 8-10 ans, il va y arriver. Je pense que ça demande un travail énorme encore aujourd'hui, parce que l'industrie a une certaine inertie, et que on a fait pendant des années, enfin la sauce Ubisoft, entre guillemets, a été déclinée pendant des années. Et je pense qu'il faudra encore un peu de temps pour que certains studios arrivent à s'en détacher, parce que forcément il y a des outils associés, et on le voit avec des machines comme Ubisoft, c'est des sociétés tellement grosses qu'elles ont du mal à sortir leur pipeline de production, on va dire.
Absolument. Je rajouterais juste par rapport à ça, ce qui fait en fait que Breath of the Wild aussi marche aussi bien, c'est cette soustraction, en fait, c'est le fait que dans Breath of the Wild, c'est quasiment que de l'exploration. Alors il y a énormément de choses à trouver, à faire, etc. Mais le cœur du jeu, c'est vraiment ça, et le jeu est, je dis pas un gros mot, mais le jeu est relativement vide, en fait, en dehors de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 50 mini-jeux, il n'y a pas 50 trucs ou quoi. C'est un jeu où c'est ça le cœur, et tout va dans cette direction. Et donc ça marche extrêmement bien, parce que le jeu est épuré, en fait. C'est pas le cas, en fait, c'est pas du tout l'approche qu'ont d'autres jeux, et c'est pas du tout l'approche que cherchent d'autres joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, des joueurs d'Horizon sur... un grand nombre de joueurs d'Horizon ne se retrouveraient pas du tout dans Breath of the Wild. Et ils ne s'accepteraient pas du tout cette approche-là.
Pour revenir à une dernière question qui revient plus sur la scène indépendante, comment tu perçois, toi, la scène du jeu indépendant en France? Aujourd'hui, on voit que, notamment sur des grandes cérémonies comme les Game Awards, il y a de plus en plus de jeux français qui sont nommés, et notamment des jeux indés qui arrivent à remporter des récompenses comme les développeurs de Stray. Mais bon, on a vu Sifu qui est sorti il y a un an et demi... et j'en oublie plein. Puis là, plus récemment, du coup, Under the Wave, Chant of Senar. Tu penses qu'il y a une vraie explosion, on va dire, de la scène indépendante, mais plus de manière générale, vidéoludique française?
Alors, explosion, je sais pas, parce qu'en fait, c'est assez ancien en France. Hein, on a une expertise et un savoir-faire en France sur la création de jeux vidéo qui date des années 90. C'était la French Touch... L'époque des Alone in the Dark, des Eric Chahi, on a ce savoir-faire qui est un peu ancien et qui revient toujours. On a toujours des profils assez experts en France qui s'exportent de partout, dans plein de studios. Il suffit de lancer le générique de n'importe quel gros AAA, il y aura beaucoup de Français qui auront travaillé dessus. Il y a énormément de savoir-faire en France. La scène indépendante en France aujourd'hui, elle s'exprime assez bien. Il y a des jeux assez extraordinaires. Tu parlais de Stray, tu parlais de Chant of Senar qui est aussi fabuleux. On a un gros rayonnement. Après, en ce moment, le marché, il est difficile. En ce moment, voilà, on est post-Covid, on est une petite bulle qui explose, les investissements sont plus rares, etc. Donc ça reste difficile de faire du jeu indépendant, et ça reste difficile de faire du jeu indépendant dans un monde où il y a de plus en plus de jeux indépendants. On n'est plus à l'époque voilà, de Indie Game The Movie et des jeux et du Xbox Live, etc. Maintenant, jeux indépendants, ça ne veut plus dire grand-chose.
Oui, c'est vrai qu'on a gardé cette appellation, mais en réalité, maintenant, tous les jeux sont dans des labels de création, etc. Enfin...
C'est ça. Sortir un jeu réellement, réellement indépendant fait par deux personnes dans une cave, ça se fait encore. Mais pour avoir l'impact que ça avait à l'époque, c'est plus du tout la même...
Oui, c'est plus une philosophie, on va dire, dans la conception, on va dire. Et ce rapport à avoir une équipe réduite, on va dire, souvent, quand on parle de jeux indépendants.
Mais donc du coup, oui, c'est important, je pense, de parler aussi de jeux indépendants et même de s'intéresser un peu à la production française. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas acquis. C'est chouette qu'on ait des studios indépendants en France qui puissent faire des choses cool. Mais voilà, si vous avez envie de les soutenir, c'est bien. Il y a plein de gens qui font des jeux très cool et qui parfois marchent pas, c'est dommage.
Avec la création du coup de Point and Think, c'est vrai que c'est un truc. Moi, j'avais pas forcément ce lien vraiment avec le jeu indé français. Je connaissais quelques jeux, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, cet exercice du coup de découverte, il est intéressant récemment parce que j'ai découvert plein de choses que je connaissais pas et que du coup qui me donne envie des petits projets qui sont développés par quelques personnes et qui au final j'avais jamais entendu parler et je trouve presque dommage parfois dans nos médias français qu'on les mette pas plus en avant parce que finalement si c'est eux qui nous font rayonner sur le long terme à l'international c'est cool de les mettre en avant quoi.
C'est ça et après il faut pas non plus opposer la scène indépendante et AAA par exemple parce qu'en fait souvent c'est les mêmes personnes enfin c'est des gens qui bougent d'un studio à l'autre et donc faut penser le truc comme ça aussi, mais c'est des gens. On parle beaucoup de studios en fait dans le jeu vidéo, mais beaucoup de studios, c'est le cas pour plein de jeux, beaucoup de studios qui changent complètement d'équipe d'un jeu à l'autre, quoi. Et donc les savoir-faire sont plus les mêmes.
C'est vrai que le turnover, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le monde du AAA et qui est lié à plein de choses, à plein de raisons, notamment les conditions de travail. Mais bon, du coup, vu que on ne parlera pas de ce sujet aujourd'hui, vu que toi, tu n'as jamais eu l'occasion de travailler dans des gros, gros studios. On aurait pu parler des différences entre le fonctionnement dans un studio indé et dans un gros studio. Tu l'as dit, c'est assez évident, c'est le fait que du coup quand t'es dans un petit studio, tu t'es un peu plus touche-à-tout, ce qui est normal dans une petite entreprise en fait, t'as des compétences plus variées, du fait que t'as pas des profils spécifiques et t'as pas une organisation hyper structurée en fait, enfin en tout cas tu l'as moins, du fait que t'as moins de personnes tout simplement.
Je dirais aussi que dans une structure plus réduite en fait, c'est plus facile de s'approprier en fait le projet, de se le rendre personnel en fait, de se retrouver personnellement dans un projet parce qu'on sait en fait que ce qu'on fait on peut le présenter en fait, on sait déjà qu'on peut le présenter à des personnes qui vont décider, qui ont le contrôle et en fait t'as moins cette perte de contrôle que tu te peux ressentir dans un gros studio où tu vas faire quelque chose mais après c'est décisionnaire de 15 personnes au-dessus et de 8 mails qui vont durer, ça va durer 15 mois sur un processus de 15 mois et ça peut être annulé au bout de 15 mois, c'est plus facile en fait de se retrouver dans un projet indé personnellement hein. Parce qu'en fait oui on mesure plus facilement son impact et on peut plus facilement faire quelque chose qui nous tient à cœur, je trouve.
Est-ce qu'il y a encore un aspect du jeu que t'aimerais aborder que t'aimerais je sais pas raconter encore une autre anecdote un truc
C'est quoi, alors on a parlé assez peu de musique et c'est un peu dommage. Bon, c'est simplement surtout pour mettre un peu le redonner du crédit aussi à Nicolas Brodin, qui est un des cofondateurs de la boîte, et qui en fait est le compositeur de la musique et le sound designer en fait, du jeu. Et pour nous, le fait d'avoir le cofondateur du jeu qui est le compositeur, ça permet en fait d'avoir la musique très tôt dans le process et d'avoir de la musique qui est composée à l'image, etc. Et c'est vrai que Under's Waves, sans la musique, c'est pas la même chose, quoi. Donc c'est juste pour mettre une petite lumière sur ça.
C'est vrai qu'au niveau des atmosphères musicales, enfin la musique pure, mais aussi des atmosphères, c'est vrai que le jeu, il y a un truc par moment où sur certaines séquences, t'es toi à la manette, ce que tu vois, c'est-à-dire pas grand-chose vu que t'es sous la mer et la musique, et c'est vrai que ça, il y a une vraie emphase qui est mise là-dessus.
Si vous voulez l'écouter, elle est sur Spotify. Voilà, je fais la petite pub, mais. Je crois qu'en Spotify ou d'autres plateformes d'ailleurs, je sais.
Et si jamais ça intéresse, alors c'est assez court, mais il y a un petit reportage sur France Télévisions. Alors je sais, c'est possible que ça soit sur une chaîne locale, on va dire. Mais qui était passé, il me semble, sur un JT un midi, si je dis pas de bêtises.
Ah, c'est vrai, oui. Oui.
Et qui est intéressant, c'est très rapide, mais du coup ça donne un petit. Enfin, ça permet de mettre en avant ce travail-là qui est... Enfin, le sound design, de manière générale, dans les jeux vidéo, il est très important aujourd'hui. On le voit notamment, c'est un peu l'argument marketing maintenant, des casques 3D, etc. Mais ça a toujours existé, en fait, l'importance du son. Pour nos auditeurs qui ont pris le temps d'écouter cette interview, comme vous pouvez le voir, c'était la deuxième interview. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt sur Point & Think. À plus.
À plus.